Gameblogueuse, gameblogueur, bonjour et bienvenue dans le podcast 401.
Podcast.
J'ai dit podcast, on va la refaire.
Il faut qu'on ait mal ou
Non, on va la refaire à ce moment-là.
Oh, c'était rigolo.
Ouais,
oh,
je sais. Oh, ok, on la refait pas alors.
Bah, allez, on
voilà. Alors, le podcast.
1, 2, 3.
Le podcastro, même, par rapport à Fidel Castro. Ouh. Voilà.
Oh, c'est beau,
excusez-moi,
c'est beau,
je m'évade complètement.
Ouais, je sais pas si j'ai envie de me mêler à ce dommage.
C'est pas un hommage, hein. Juste voilà. C'était un mot lâché comme ça. Voilà. Podcast 401. Rappelez-vous, le podcast 400 est arrivé et on a bien fêté ces 400 numéros. Aujourd'hui.
Avec nos abonnés premium qui étaient physiquement ici, puis avec vous, hein, derrière les micros, derrière, avec vos petits écouteurs et tout. On vous aime et on vous remercie encore. C'est grâce à vous qu'on en est arrivé là.
Exactement. Avec moi aujourd'hui, donc vous l'avez entendu, Julien.
Bonjour.
Carole.
Coucou.
Et Rudy.
Bonjour.
Pour un podcast.
Mais Rudy, il m'énerve parce que j'aimerais bien avoir sa voix.
Non.
Parce que, écoute ce timbre.
Vachement sexy. Salut.
Ah, ouais, merci,
bon, c'est tout. Vachement sexy, vachement chaleureuse. Ah,
est-ce que tu peux. Alors, Rudy,
tranquille.
Attends une seconde. Est-ce que Rudy, tu peux nous faire juste là comme ça. Bonjour, c'est Gérard Darmon. Vite fait.
D'accord. Bonjour, c'est Gérard Darmon.
Ouais, mais ça marche, vois, ça marche.
Ça fait, moi, je suis assis à côté de lui, ça fait vibrer un peu.
Ça marche. Ah, ou alors. Bonjour, c'est Barry White, vas-y.
Ah non, mais là, c'est différent.
Okay.
Salut, c'est Gilbert Montagnier.
Oui,
toi, moi, ça marche bien.
Là, effectivement, je ferme les yeux, je vois.
Tu visualises.
Alors, vous vous en doutez peut-être pas, mais c'est un podcast entièrement dédié à Final Fantasy XV qui est sorti, ça y est, après 10 ans d'attente, à l'époque où il s'appelait encore Final Fantasy Versus 13. Il est arrivé ce 29 novembre sur PS4 et Xbox One. Le test est déjà disponible. Julien vous a fait un « J'ai quelque chose à vous dire ». Maintenant qu'on a eu ton avis, Julien, on va l'avoir aussi dans ce podcast, mais on va en avoir d'autres au passage.
Bah, j'espère bien. Ouais.
Parce qu'il faut parler évidemment de ce jeu qui est quand même un des jeux les plus attendus de tous les temps. Une arlésienne de folie et un jeu qui a délivré visiblement ce qu'il avait à délivrer, c'est-à-dire une expérience hors norme. On va essayer d'analyser pourquoi ce jeu est un événement. On va revenir un petit peu sur la genèse justement du développement dont tu as déjà parlé aussi dans un autre J'ai quelque chose à vous dire. On va parler évidemment.
Je suis désolé, je parle beaucoup.
Oui, ça c'est vrai.
Je vais me taire pendant ce podcast.
Oh putain.
Bon, peut-être pas totalement.
Bon, on va parler un peu évidemment du gameplay, de la technique, des musiques aussi, parce que les musiques visiblement ça a l'air d'être le gros point fort du jeu. Je dis pas visiblement, puisqu'en fait c'est auditivement, déjà pour commencer, et ensuite
divines.
On a pu vérifier. Et on parlera évidemment de l'histoire et des raisons qui font qu'on accroche. Ici, là, dans cette pièce, ou pas, à Final Fantasy XV. On va commencer évidemment avec cette histoire, ce développement à rallonge. Julien, 2006, E3, t'y es. Bonjour,
lui,
Final Fantasy Versus 13.
8 mai 2006, ouais, je me rappelle, c'était à Los Angeles, Square Enix, donc c'était une conférence d'avant E3. Eh bien, ils avaient présenté ce qu'on allait connaître comme Fabula Nova Crystallis, c'est-à-dire une collection de jeux qui partagent non pas des mêmes décors ou des mêmes personnages, mais une mythologie commune. Et donc, ils annonçaient consécutivement, en surprenant la presse et les joueurs, FF13. Agito 13 et Versus 13. Et effectivement, si les deux premiers, enfin, si le premier est sorti globalement à peu près dans les délais, avec beaucoup de problèmes en développement interne, mais enfin, ça allait. Agito 13, lui, il a fallu attendre un peu et il a été renommé en Type 0. Et puis, Versus 13, par contre, ça a été une longue destinée, hein, 10 ans d'attente, même si j'insiste sur ce point, parce que ça permet de mieux comprendre un peu ce qu'il en est aujourd'hui.
C'est que c'est
ça
pas
a
vraiment
pas
ce qu'on nous a montré.
10 ans de développement ininterrompu, pas du tout. Le jeu, en fait, après avoir été montré sur cette cinématique, là qu'on voit si vous êtes premium, qui était donc la cinématique initiale, qui, tout le monde était comme des fous et tout, avec Noctis, dans un univers qui fait très réel, puisque dès le début, hein, la tagline, c'était based on reality, fondé sur la réalité, avec vraiment des monuments qui sont très tokyoïtes dans l'absolu, quartier Shinjuku de plus précisément. Eh bien, après ça, il y a carrément eu une espèce d'ellipse de quasiment 2 ans sans qu'il se passe presque rien. L'équipe de développement était extrêmement peu nombreuse, ils ont fait des prototypes et tout le monde est parti sur FF13 qui en avait bien besoin car le développement était complètement épique, des problèmes internes sur les moteurs graphiques, des problèmes... on va dire, du développeur japonais en particulier, enfin en général, et Square Enix en particulier, pour appréhender la PS3 à l'époque. Ça a été une tannée totale, et d'ailleurs vous l'avez vu, il y a eu toute une génération où les Japonais ont galéré comme pas permis. Bah, FF13 en était l'un des symptômes. Et puis quand le développement aurait pu enfin rebasculer du côté de Versus 13, patatras, Il y a la catastrophe que Rudy connaît bien, FF14, qui sort dans un premier temps et c'est l'apocalypse. Et là, ça écorne tellement l'image de FF. Et la direction de Square Enix réalise à quel point ils vont perdre énormément d'argent qu'en fait, ils mettent le plan hors sec sur FF14, changement de directeur et refonte totale du jeu. En fait, c'est un deuxième FF14 qui est lancé.
Avec le Realm Reborn, effectivement, qui réapparaît. C'est vraiment un FF14-2 quelque part qui n'a rien à voir avec la première version qui avait pu être effectué avant, et c'était, il le disait vraiment en avant, c'était on s'excuse devant nos joueurs. D'ailleurs, le jeu n'était plus payant, parce qu'il y avait un abonnement payant, enfin il ne l'était plus, tout était gratuit, et c'était on s'excuse, on veut tout faire pour vous prouver qu'on est capable quand même encore de faire d'excellents Final Fantasy.
Et donc pendant quasiment un an et demi, deux ans, toutes les forces humaines et financières ont été concentrées sur FF14, et en attendant, FF versus 13, il attendait, et quand enfin, ça y est, ils auraient pu s'y remettre. Ah ouais, mais attends, il y a la génération PS4 qui arrive, ouais. Est-ce que vraiment technologiquement le jeu était de plus en plus ambitieux avec la volonté de Nomura de faire un open world, du coup avec une map en 1 pour 1. Ah ouais, mais alors attends, est-ce que ça va réussir avec la PS3? Bon blablabla, et du coup il décale sur PS4, il renomme le jeu en FF15, on ne le saura qu'un an après à l'E3, et finalement en fait le développement réel de FF15 commence à peu près en 2013, là c'est des grandes lignes, à peu près en 2013, repris à la direction par Hajime Tabata, et c'est parti donc pour 3 ans et demi à peu près de développement intense pour aboutir à FF15, voilà, le FF qu'on connaît. Ce qui fera beaucoup de frustrés d'ailleurs, hein, puisque jusqu'à la vidéo de l'E3 2013 où Square Enix révèle que ça devient un FF15, et cette vidéo comprise, tout ce que vous avez vu,
n'existe pas.
Il n'y a rien dans le jeu. Rien. Aucune de ces séquences. Ou bien différemment, etc. Mais pas ce que vous avez vu. Et j'irai même plus loin. La vidéo de la Gamescom 2015, donc je veux dire, c'était il y a un an, avait une séquence assez forte, assez poignante. Elle n'est pas non plus dans le jeu. Donc c'est là où on voit qu'il y a eu quand même beaucoup de raccommodage et que c'est clair que tout n'est pas parfait.
Mais il y a quand même, on va en parler maintenant, hein, je pense, mais une ambition aussi de faire quelque chose de très complet, une expérience complète, un truc transmédia avec d'autres, d'autres choses à grignoter dans l'univers de FF15. On va parler de Kingsglaive, par exemple, qu'on a pu voir avec Rudy, que vous t'as vu aussi, hein, j'imagine, même j'en suis sûr. On parle de
Brotherhood,
les cinq animés.
Il y a aussi toutes les applications Android en plus. Ouais. Donc Noctis et Samy jouent souvent sur téléphone aussi bien. Ou même du pinball avec Justice Monster 5 par exemple, ou à King's Knight.
Pas terrible. Et
King's Knight, alors Prompto, il en parle.
Il en parle tout le temps. C'est du teasing parce qu'il va effectivement sortir sur mobile en 2017. Donc ça
c'est
annoncé,
très,
c'est
très
sûr.
Bon, hein.
Hâte de voir ce que ça va pouvoir donner. Effectivement, Justice Monster 5, pas terrible,
c'est pas terrible.
Mais disponible aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il y a tout ce travail qui a été effectué tout autour,
hein.
Voilà, sur l'univers complètement transmédia en fait, et sur plein de supports différents.
Ouais, ils ont bien préparé en fait. Ils ont parfaitement préparé l'arrivée d'FF15 d'une manière médiatique et d'une manière de manière globale, quoi, en entourant vraiment le jeu de tout un tas de choses pour qu'on puisse s'y intéresser. Et
avec une communication qui est quand même assez inédite, puisque jusqu'à la reprise en main par Hajime Tabata, c'était quand même le grand mystère. On savait pas où en était Versus 13, il existe, il existe pas, il existe plus, va-t-il être annulé, etc. Bon, on n'y voyait pas grand chose. Et à partir du moment où Hajime Tabata est arrivé, ils ont commencé à faire des Active Time Reports. Bon, que moi je trouve techniquement très cheap, qui n'ont pas un intérêt tous très régulier. C'est un peu comme les Nintendo Direct, hein. Il y en a un sur cinq où il y a un vrai truc important.
C'est très japonais.
Mais c'est très japonais. Mais au moins, ça permet pour les fans d'avoir comme ça très régulièrement
un suivi, une
honnêteté. C'est-à-dire qu'ils ont montré le jeu dans tous ses états. Hein. Ça a l'air des états où c'était pas terrible, des états où ça avait l'air d'être un peu mieux, etc. Mais de créer quelque part aussi une vraie prise de parole et une vraie franchise par rapport à ce qu'en est le jeu.
Oui,
bah
voilà.
Ça crée surtout un lien avec les joueurs.
C'est ça, tu parles de ce lien et de Final Fantasy XIV, et ça c'est tiré justement de Final Fantasy XIV. C'est avec Final Fantasy XIV et son développement un petit peu chaotique qu'ils avaient ils appelaient ça les lettres du producteur sur Final Fantasy XIV, et donc ils ont récupéré ce qu'ils ont trouvé, que ça fonctionnait extrêmement bien, et c'est le cas. Donc sur FF15, ils ont exactement fait la même chose avec les AT.
Mais c'est important de parler avec les joueurs, de leur faire part des doutes, de l'avancée sur le jeu, et je crois que c'est c'est ce qui crée une relation vraiment si particulière. Alors les joueurs, ils ont vraiment une relation profonde avec Final Fantasy, mais avec ce suivi-là, avec cette communication entre les développeurs et les joueurs, bah, ça ajoute encore un affect. Je trouve que c'est vraiment un bon mode de fonctionnement. En tout cas.
Julien, tu viens de cligner des yeux en me regardant.
D'autant,
oui,
parce que je commence à devenir vieux. Alors, bientôt la petite bave à la Péju. Aussi, vous connaissez beaucoup de triple A de cette envergure qui ont donné autant de démos en cours de jeu et qui ont écouté, pas tout, mais une partie des commentaires des joueurs pour affiner le jeu, etc. On a quand même eu la démo du Sky, alors qu'il n'y a quasiment plus de démos de jeux vidéo. Une démo du Sky 2.0. Ouais. Après, il y a eu la Platinum lors du Uncover de machin.
Lorsqu'il est un peu plus jeune, justement, on joue à Noctis plus
la
jeune.
La Platinum, elle était vraiment géniale.
Alors, elle a beaucoup divisé. A nous, beaucoup c'est vrai qu'elle nous a plu parce que ça permettait de voir
une démo technique,
plein de choses.
C'est exactement
tout simplement. Oui.
On voyait le Titan, on voyait le Léviathan, on voyait le jour, la nuit, les ambiances, etc. Mais bon, c'est vrai qu'en termes de gameplay, c'était pas la folie.
Non, c'était un teaser en fait.
C'était un teaser.
Donc, c'était plus technique, effectivement. On voyait les changements météorologiques, le jour, la nuit. On avait les petites plateformes, on pouvait se transformer d'ailleurs
on pouvait avoir des créatures
en créatures.
C'était plutôt
moi,
cool.
J'ai trouvé ça génial.
Et pour les Japonais, et que les Japonais, il y a eu quelques temps avant la sortie la démo Judgment qui était quand même très conséquente. On peut, si on la rush, si on fait juste histoire principale, c'est une heure et demie.
C'est le chapitre 1.
Mais si on fait pas ça, ça peut durer une dizaine d'heures de gameplay.
Mais justement, plus, dans une démo, ce qui est assez fou, on se souvient peut-être tous des démos sur PlayStation 1 qui étaient à durer peut-être 20 minutes, 30 minutes, tandis que là, ils ont fait toutes ces démos live d'ailleurs. J'ai l'impression que c'est Square Enix qui a lancé les démos avec les patchs pour des démos quand même.
Oui.
Tout à fait.
Ça reste aussi extrêmement important. Donc quand tu parlais des retours, ces retours étaient quand même pris en compte en temps réel sur des démos. Donc,
Puis une démo qui est vraiment conséquente, qui est, enfin, d'après ce que j'ai compris, c'est ils ont coupé un bout du jeu et du coup, bah, on peut faire ce qu'on veut dedans. Il y a même des joueurs qui ont même réussi à aller du Sky dans d'autres régions en trichant un petit peu.
Ah, dans la démo du Sky.
Dans la démo Judgment.
Aussi.
Parce que le truc avait vraiment été coupé. Et bon, après, ils ont pas fait gaffe à tout et du coup, ça a permis à certains petits fouineurs de pouvoir se téléporter à d'autres endroits.
Dans du Sky, on pouvait. Il y avait un mec qui avait trouvé que si tu sautais, tu sais, il y avait une espèce de mur invisible.
Il y en a beaucoup.
Mais si tu sautais sur la voiture et tu te mettais par-dessus et tout, tu pouvais traverser le mur invisible.
On a passé une heure à attendre de se faire.
On a essayé, on n'a pas réussi. Et tu pouvais aller voir Titan en avant-première, entre guillemets. C'est la première fois qu'on le voyait et tout. Bon, pas très bien modélisé parce que c'était pas fini. Et je tenais quand même à dire une chose, c'est que donc, le jeu a eu une attente phénoménale, c'est certain, mais y compris sur Gameblog, puisque pendant l'essentiel de l'année, pour tout vous dire, jusqu'à la sortie de Uncharted 4, qui était jusqu'alors le jeu le plus attendu de la communauté Gameblog, eh bien c'était FF15 et d'ailleurs on l'a vu dans chaque contenu quasiment, il y a
l'engouement
extrêmement
est là.
Nombreux voilà, c'est un jeu qui était très 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 attendu par les joueurs et par les membres Gameblog.
D'ailleurs, tout à l'heure, vite fait je rappelle que tout à l'heure on vous dira aussi à quel point vous avez aimé Final Fantasy XV, parce qu'on vous a soumis un sondage et vous avez été nombreux à répondre, et la réponse va vous surprendre. Carole, je t'ai coupé.
Ce qui est intéressant aussi avec Final Fantasy XV, c'est que comme tu disais tout à l'heure, il y a eu Kingsglaive, il y a eu Brotherhood aussi, et moi je trouve que c'est super intéressant.
Il y en a un qu'on oublie, parce que je sais pas où il est, c'est King's Tale. Un jeu typé rétro avec Régis, tu vois, on en parlait quand on avait fait un podcast il y a pas longtemps. On se disait, il nous faut un jeu avec Régis, un Final Fantasy Régis.
Je disais pas Régis, c'est le père
c'est
de
le père de Noctis,
c'est le père de Noctis,
qui a la méga classe, qui est peut-être le perso le plus classe de tout FF15.
T'imagines les joueurs qui n'ont pas joué, qui connaissent pas le nom du roi, c'est qui Régis, c'est un Pigis, Game Jog.
T'imagines un jour ils font le DLC Régis.
C'est vrai que Régis.
On pense au nul, donc forcément on se dit Régis. Bon bref. Quoi qu'il en soit, il y en a un qui est disponible avec l'édition collector, qui s'appelle donc King's Tale, qui est un espèce de petit jeu rétro. Mais sauf que pour l'instant aucune trace. Donc je sais pas ce que fait Square Enix, si vous le regardez.
Aux États-Unis, c'était avec GameStop, me semble-t-il. Donc normalement en France, ça doit être Micromania, parce que c'est la même boîte.
Je sais qu'il y a un des philosophes qui a posé la question à Square, qui n'a pas eu de réponse encore pour l'instant. Thomas, si tu nous regardes, si tu l'as, n'hésite pas à nous dire. Mais en tout cas, voilà, il y a ça aussi en plus, qui se passe 30 ans avant les événements de Final Fantasy XV, qui permet d'en savoir un peu plus sur Régis, sur trois autres persos, dont un. Sid,
Jean-Luc.
Il y a Sid.
Et Robert.
Welcome. Welmacra, je me rappelle plus de son nom. Un type qu'on rencontre à Alticia. J'en dis pas plus. Et qui fait partie du voyage.
Derrière le papa de Gladiolus,
si je ne m'abuse.
C'est plutôt le bar, quoi.
Mais bref, voilà, c'est tout un ensemble. Et donc, Carole, je t'ai encore coupé. Donc, du coup, tu vas pouvoir reprendre le fil.
Alors, je reprends de mon idée, mais il n'y a pas de problème. Effectivement, ça crée un affect encore plus fort avec les personnages parce que tu peux te faire le jeu, le film, la série pour approfondir un petit peu la relation avec chacun des personnages, parce que même si c'est très court, c'est environ 10 minutes chaque épisode, on découvre vraiment le passé de chacun des protagonistes, et je trouve que ça crée encore plus d'affect avec eux, parce qu'ils n'ont pas tous un passé forcément facile. Moi, j'ai trouvé que Prompto, en tout cas Julien sera d'accord avec moi, était hyper touchant.
Ah, il a fait l'école de la rue un petit peu c'est assez doux.
C'est un ancien gros,
il est déjà touchant dans le jeu, alors quand tu regardes en plus l'anime, c'est encore plus poignant et avec King Lev t'en apprends un petit peu plus effectivement sur Régis, sur l'histoire, tu comprends mieux, donc ça englobe bien le truc et donc ça t'immerge davantage et enfin
c'est vrai que c'est extrêmement bien maîtrisé, enfin tous ces contenus là et d'ailleurs je conseille vraiment de faire l'animé, le film et ensuite le jeu vidéo,
justement comme ça ça te prend bien.
Je voulais venir plus tard, mais en ce qui me concerne, j'estime que c'est carrément indispensable. Si j'avais pas vu King's Glaive avant, et on va en parler après au niveau de l'histoire, mais si j'avais pas vu King's Glaive, il y a des tas de choses que j'aurais pas du tout comprises dans le jeu. Et l'univers en lui-même m'aurait sûrement pas happé à ce point-là, je pense.
C'est ça, et j'ai envie de dire, si tu n'as pas vu l'animé, c'est encore plus compliqué de comprendre King's Glaive et donc de comprendre le jeu. C'est pour ça que je veux vraiment faire dans cet ordre-là.
Je sais pas si c'est indispensable.
Les 5 dernières minutes du dernier épisode de l'animé, malheureusement.
Moi, je trouve que justement, l'animé est plus intéressant que King's Glaive. King's Glaive, j'ai pas trop aimé.
Moi je trouve que ça raconte pas grand chose.
Je trouve que c'est super beau techniquement. Je trouve que évidemment il y a la séquence clé concernant Régis. J'ai pas compris qu'ils communiquent dessus, ils ont spoilé plein de trucs. Enfin, vous savez qu'il se passe passer un truc avec Régis. Évidemment, oui, c'est sûr, si tu vois pas ça, c'est dommage, mais je veux dire, tu le sais ce qui se passe, donc c'est pas très grave. Alors que il y a plein de trucs qui sont dits dans Brotherhood qui, je trouve, apportent beaucoup plus de choses sur les personnages que dans King's Glaive. Et je trouve que King's Glaive se perd un peu. La fin de King's Glaive, à part des explosions dans tous les sens, je sais pas trop
ce que c'est. On est d'accord sur ce point-là.
King's Glaive, c'est 40 minutes de trop.
Brotherhood est plus humain, on va dire, entre guillemets.
Je trouve ça plus riche, Brotherhood, même si c'est pas très beau. Par contre, je trouve plus intéressant.
Très bien. On va peut-être passer maintenant au jeu en lui-même.
Et Brotherhood, c'est gratos, c'est sur YouTube. Vous avez les 5 épisodes, c'est sous-titré en français, allez-y. C'est pas très beau, mais c'est pas mal, c'est intéressant.
Alors, ce Final Fantasy XV, revenons au gameplay. Donc, après FF14 qui est un MMORPG, après FF13 qui était
une purge,
j'allais le dire, après FF12 qui était un espèce de MMORPG intégré dans un jeu solo, on arrive là dans
un action. J'ai envie de dire qu'après FF10, on peut passer directement.
On n'est pas dans un RPG tour par tour comme FF a pu nous en produire auparavant. On n'est plus dans la transition RPG-MMO qui était Final Fantasy XII, on est passé à de l'action RPG, comme peut l'être Crisis Core Final Fantasy VII.
Mais Carole, je trouve, a complètement raison. Après, c'est très subjectif, chacun ses avis et ses choix, quoi. Mais quand elle dit après FF10, on peut passer directement au 15, dans les faits en tout cas, commerciaux, la communication générale des joueurs et tout, ce qui est sûr, c'est que depuis FF10, depuis la fin d'FF10, la licence, doucement mais sûrement, périclite, quoi. Baisse en intensité.
Sauf au niveau 14.
Alors 14 a récolté. Mais 14, la deuxième fois qu'il est sorti, est quand même pour un public de MMO. C'est-à-dire, c'est pas forcément 100% public FF.
C'est vrai que
ça m'attire moins.
Et donc, il y a quand même, il faut en avoir conscience, la saga Final Fantasy, c'est un monument du jeu vidéo, etc. Mais en termes d'impact, en termes d'affect et en termes de puissance commerciale, elle ne cesse de baisser. Et donc, l'importance de FF15 est cruciale pour l'avenir de la licence Final Fantasy.
C'est ça.
Bon, on répondra tout à l'heure pour savoir si ça redresse.
Il y a quand même une pression très forte sur les épaules de ce jeu à plus d'un titre.
Très bien. Parlons gameplay, donc, messieurs, dames. Rudy, Carole, puisque Julien s'est déjà trop exprimé. Parlons un peu du gameplay de manière générale.
Du gameplay, effectivement, qui est peut-être. Enfin, tu me parlais tout à l'heure d'action RPG.
Oui.
C'est moi, je trouve, l'un des meilleurs gameplay que j'ai pu avoir dans un jeu. Enfin, dans un RPG japonais, quoi. Et même quand on joue, on n'a même pas l'impression d'être dans un RPG. Hein, soyons honnêtes. Ça me rappellerait presque un Bayonetta. Bon, je vais peut-être un petit peu.
Ah, tu parles uniquement de l'action là. Moi, je parlais aussi
du gameplay,
le monde ouvert, l'exploration.
Ah, en termes de. Parlons des combats d'abord.
Parlons des combats d'abord. Ensuite, là, je pense que ce serait moins joyeux si tu veux sur ces points. Non, mais effectivement, donc concernant les combats, c'est extrêmement simple en plus. Donc sur PS4, vous restez appuyé sur la touche rond pour enchaîner les attaques. Mm-hmm. Et donc Noctis fait le travail très bien tout seul.
Il fait le job.
Excellent bien en plus, de manière très stylée. C'est extrêmement gratifiant visuellement parlant. Ensuite, avec la croix directionnelle, on peut changer à n'importe quel moment d'arme. Et donc, on peut très bien commencer un combo avec une épée courte, ensuite prendre une lance, aller faire partir en arrière et changer en reprenant un 9mm ou une arme d'assaut. Et ça, sans aucun problème.
Et c'est important parce que chaque ennemi, parce que le bestiaire est très varié et assez étendu, mais chacun a vraiment des forces et faiblesses. Et si vous vous obstinez sur une force de votre adversaire, vous n'allez pas lui faire grand chose. Par contre, dès que vous détectez ou vous vous mettez en phase avec sa carence, qu'elle soit d'ordre magique ou physique avec telle ou telle arme
que vous allez
fait basculer le combat très rapidement.
Bah, complètement. Et c'est ça qui est très intéressant. Le jeu vous pousse à chaque fois, donc finalement, à enchaîner ses combos en changeant à chaque fois d'arme. Et surtout, ce que j'ai adoré, c'est ces interactions justement entre les personnages.
Oui,
c'est-à-dire qu'il y a
des dialogues.
Plein de... non, mais je parle pas des dialogues.
Ah oui, les combos.
Les combos,
tu m'en parlais,
exactement,
c'est vrai, tout à fait.
Donc,
comme par exemple quand on se place dans le dos, parce que le jeu insiste beaucoup sur le fait qu'il faut esquiver et se placer dans le dos pour faire plus de dommages. Et effectivement, quand on tape dans le dos.
C'est gratifiant en plus, les attaques dans le dos.
Ouais.
Ça paye, c'est très
gratifiant.
Ça paye, et puis voilà, ça offre des animations supplémentaires, des petites. Je sais que par exemple, quand. Ignis arrive pour donner un coup en même temps que Noctis de dos, après ils font un petit check comme ça,
ça
ajoute un petit truc en plus forcément.
Il y a vraiment beaucoup d'animations contextuelles qui dynamisent les combats et qui, moi, je les trouve quasiment uniques du coup à chaque fois. Et effectivement, ce qui est intéressant, c'est que en gros, dans une, vous allez arriver, boum, il y a des ennemis là, c'est, il n'y a plus de tour par tour, où il n'y a plus d'ennemis qui vont popper, sauf la nuit, parfois ils peuvent apparaître, sortir, surgir comme ça du sol, et
ça,
ils sont énormes,
des démons qui arrivent vraiment, des
super impressionnants
pour venir vous attaquer.
Mais parfois vous avez des, on va dire, des panels de combat de joutes où il y a beaucoup de personnages, 5-6 ennemis minimum, et certains n'ont pas les mêmes forces et faiblesses, et donc vous devez en temps réel switcher d'armes, voir l'emplacement, et comme tu le disais, effectivement, si vous les attaquez par derrière, c'est très fort. Et il y a le bouton d'esquive que vous pouvez maintenir appuyé tout le temps, mais du coup vous allez être moins sur l'attaque, qui va vous permettre
d'esquiver, consommer de la magie,
et c'est très classe, mais vous consommez de la magie, et du coup c'est toujours cet équilibre à respecter que je trouve très intéressant.
Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça apporte énormément de dynamisme, parce que par exemple, je reviens sur FF10, qui pour moi était le dernier bon Final Fantasy, toutes ces choses là tu le faisais au tour par tour, donc tu avais le temps quand même de réfléchir comment je vais attaquer, est-ce que je vais me défendre, est-ce que je vais encaisser, qu'est-ce que je vais utiliser comme arme ou comme objet. Là, comme disait Julien, tu le fais en temps réel, et du coup ça ajoute vraiment une espèce de pression. Je trouve que ça correspond tout à fait, de toute façon, au monde ouvert. On n'est pas dans un jeu couloir, et là, c'est, pour moi, c'est une plus-value. Certains étaient un petit peu réfractaires au combat. Voilà,
c'est un risque,
hein,
de la part de Square Enix, d'avoir abandonné des systèmes qui fonctionnaient très bien de tour par tour ou de semi-tour par tour, comme c'était le cas avec FF12. Et mine de rien, ça peut poser des problèmes.
Paye,
moi, je sais que de mon côté, par exemple, j'ai quelques soucis de verrouillage quand il y a trop d'ennemis.
Non,
dans la lisibilité.
Ah ouais, c'est
non, il parle vraiment du verrouillage des personnages, parce que tout à l'heure, Julien, par exemple, disait qu'il peut avoir 6 personnages en même temps. Moi, il m'est déjà arrivé d'être en combat avec...
Et de verrouiller le mauvais.
Non, mais voilà, non, mais 14 ou 15 ennemis en même temps. Ouais, parce que, par exemple, je m'attaquais à des bombos, en fait, ils étaient 3. Ensuite, justement, parce que c'était de nuit, en plein combat, il y a une sorte de démon qui est encore plus puissant.
Parfois,
que les
c'est
autres.
L'apocalypse.
C'est exactement
et
ça.
Et sans oublier qu'il y a évidemment
la flotte qui arrive.
Et voilà, il y a la magie qui arrive.
Et ensuite, il y a 12 soldats impériaux qui sont tombés. Et donc, il y avait. Voilà,
plus on est fou, plus on rit.
Non, mais voilà, enfin, c'est ça, mais il y avait 16 personnages en même temps. Enfin, moi, j'ai pris mon pied, mais comme jamais.
C'est fantastique.
En revanche, pour verrouiller le bon personnage, j'ai souffert.
Surtout dans la nuit,
mais,
on
mais
est 600. Alors attends, où tu es, toi? Où
non,
suis-je,
voilà.
Julien, parfois, se chercher.
Ouais, alors ça c'est un truc qu'il faut vraiment dire, parce que vous l'avez déjà lu, on vous l'a dit dans le test, etc. Mais il y a quand même un problème avec les caméras. Ce problème, en fait, il est tout bête et presque incompréhensible. C'est qu'en fait, elles n'occultent pas les éléments du décor. C'est-à-dire que les personnages de soutien, eux, disparaissent quand ils se mettent devant la caméra, mais pas le décor. Donc, par exemple, des buissons un peu trop volumineux, des arbres, je parle. Et bah, si votre caméra se passe devant, bah vous voyez pas ce qu'il y a derrière.
Pas
donc parce que vous savez pas. Ouais. Ça c'est complètement con.
Bah oui, mais si tu te battais dans la vie et que Poufy te cadrait, il y aurait.
Ça reste un jeu vidéo. Si c'était dans la vraie vie, je t'avouerais que face à des adversaires comme cela, peut-être que je prendrais la fuite quand même.
Tu prendrais un chocobo quand même.
Un chocobo. Mais mais et ça c'est un vrai souci. Alors après, honnêtement, toujours pareil, si vous vous battez un peu avec le stick de la caméra, vous arrivez à le replacer. Mais il y a des moments de frustration. Il y a des moments où
c'est ça.
Ah putain.
Voilà. Non mais voilà. Mais encore une fois, quand tu veux sélectionner tel ou tel personnage, justement, comme tu parlais quand même juste avant, il faut choisir les bonnes armes ou les bonnes magies pour pouvoir tuer le bon monstre.
En temps réel.
En temps réel. Et donc c'est extrêmement frustrant quand par exemple on a choisi, par exemple, ça m'est déjà arrivé d'utiliser un sort de foudre
sur le mauvais.
Non, sur Ignis, le pauvre qui était en train de souffrir.
Ouais, carrément. Parce que tu t'es même pas trompé d'ennemi, tu t'es non, carrément. Tu t'aurais pris à tes amis. Quoi.
Oui, voilà, c'est ça. Enfin, et d'ailleurs, parce que, enfin, ils prennent aussi des dégâts hein, si vous utilisez
un sort de foudre. C'est un sort de zone, en fait.
Exactement.
Tout à fait.
Et donc, enfin, voilà, ça quand même. Je pense qu'il y aurait un travail à faire sur ça, ne serait-ce que déjà détourer les personnages, surtout la nuit, ça ferait.
Les mettre en surveillance.
Alors après, ça, tu vois, typiquement, moi, je suis content que ce soit pas le cas parce que moi j'aime bien sortir un peu du côté jeu vidéo et trop d'indications à l'écran et machin, enfin
trop de game
science. Bon après c'est sûr, je suis d'accord avec toi, il y aurait des améliorations à apporter. Parfois c'est un peu confus, mais je trouve que malgré tout cela, une fois qu'on a dit ça, il y a un plaisir addictif dans ces combats, avec pour l'une des premières fois dans les Final Fantasy des musiques très, d'habitude il y a une musique de combat et puis une musique spécifique pour un boss, etc. Là il y en a plein de musiques différentes lors des combats et elles sont grandioses, elles te font monter en pression et t'as presque l'impression de te caler sur le rythme de la musique et d'enchaîner tes combos, de balancer, parce que chacun de vos compagnons vous ne pouvez pas les diriger. En revanche ils ont en haut, sur le côté à gauche, une jauge qui va grimper plus ou moins vite en fonction de vos compétences, etc. Qui va pouvoir leur permettre de balancer leur leurs actions, leurs capacités,
c'est des capacités spéciales qu'on peut enclencher,
leur overdrive en fait,
overdrive, on va dire.
Mais c'est vrai qu'Ignis c'est plutôt du scan.
Ça dépend.
C'est bien, c'est non,
du marquage,
mais ça dépend.
Le scan, ouais, tu peux changer.
Parler du scan, mais ça dépend. Enfin, excuse-moi.
Ouais, non, mais tu peux changer quoi. Tu c'est toi qui choisis. Ouais. Mais donc voilà, et ça fait quelque chose de très complet. Et en fait, on est poussé à rusher, mais en fait, il faut se dire. En fait, faut pas rusher, faut reculer, faut prendre le temps, faut prendre un petit peu de recul sur la bataille et repartir dedans avec une chose que moi je trouve très cool, c'est l'éclipse, qui fait que plus vous êtes éloigné de l'ennemi que vous voulez frapper, plus vous allez lui faire mal. Et plus vous êtes en hauteur, plus vous allez faire mal.
C'est la téléportation en lançant l'arme.
Qu'est-ce que c'est
que Curtis ?
Parce qu'on en a pas parlé, on peut pas parler du combat sans parler de l'éclipse.
Absolument.
Parce qu'effectivement, parce que plus que l'éclipse déjà, elle permet de prendre du recul, comme tu dis. C'est par exemple, vous êtes en train de vous battre, mais il y a un poteau électrique devant vous. Vous pouvez lancer votre épée en fait pour qu'elle s'accroche au poteau et vous êtes en hauteur. Vous, comme ça, vous récupérez des HP.
Ça permet de te sortir aussi parfois quand c'est trop le.
Exactement.
Oh, trop
vous
la
sortez
merde,
du
bam,
combat,
tu
vous récupérez des HP, vous récupérez de la mana, vous pouvez utiliser des objets justement pour pouvoir ensuite reprendre le combat dans des bonnes conditions et ensuite relancer directement votre arme en utilisant l'éclipse sur un ennemi. Vous avez des dégâts supplémentaires si vous en plus utilisez l'éclipse de suffisamment loin ou de suffisamment haut. Et donc il y a aussi toute une stratégie en fait à prendre en compte avec ces téléportations au bon moment. Enfin, c'est juste excellent.
Et quel dommage qu'on ne puisse pas utiliser ces téléportations dans le monde ouvert.
Oui.
C'est quand même.
Alors, c'est plus le cas.
C'est
désormais le cas.
C'est vrai.
Depuis le Day One en fait.
Ah, mais je savais pas.
On y a joué avant le lancement.
1.02, hein, pas le
problème. C'est le Day One. C'était
Donc
29.
On peut faire des murs invisibles. Tout
cela
le temps.
Dit, tu manges des MP. Hein. Enfin, des PM.
PM,
comme ils disent en français.
Ouais, mais après,
mais
si on
tu
peut
peux avancer comme ça. Moi, je trouve ça. Par exemple, moi, je ne le ferais pas. Mais
t'as la possibilité.
La liberté, exactement. La liberté aux joueurs. C'est très bien.
Au début du jeu, ça aide quand même. Enfin, quand on aura le chocobo, ensuite, au fur et à mesure, c'est bon.
Mais
au début du jeu, ça fait.
Et justement, à propos du chocobo, le chocobo peut aussi se battre. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment génial. Bah, justement, quand
en gagnant de l'expérience, il va débloquer
de
des nouvelles compétences,
etc. Mais aussi des compétences, 14, par exemple, des coups de griffe, etc. Et moi, la dernière fois, quand on a fait notre émission, notre live, je sais pas si vous l'avez vu, si vous avez regardé l'émission, eh bien, j'ai utilisé le chocobo qui a fait un espèce de retourné boulet avec sa griffe, un genre de retourné de volet à la Olivier Tom et du coup c'était hyper efficace. En plus ils sont plutôt
plutôt
bons quoi, plutôt forts, donc je trouve que c'est cool aussi quoi.
Mais c'est l'un des épisodes où les chocobos sont les plus gratifiants quoi, c'est à dire que vraiment quand tu les as pas tout de suite, c'est une libération totale parce que la Regalia, donc la voiture, est globalement sur des rails ça peut s'expliquer pour plein de raisons, mais effectivement dès que t'as les chocobos, bah là tu vas vraiment où tu veux, tu peux aller dans l'eau alors que c'est pas possible quand t'es à pied. Et ils sont super beaux avec leurs petites plumes qui bougent bien. Il y a la musique qui t'entoure, tu gagnes du temps, tu leur fais gagner de l'expérience.
Tu peux choisir la couleur, tu peux
ils
le mettre en blanc.
Ils combattent avec toi, tu peux les customiser, tu peux leur donner un nom, gagner des médailles, faire des courses.
Trop cool.
Enfin, les chocobos, là, je trouve qu'ils prennent une dimension encore plus forte que
on peut pas leur mettre, on peut pas leur donner tous les noms qu'on veut. Moi, j'ai voulu appeler le mien Macouille et le jeu a dit non.
C'est vrai
ouais, vraiment.
Non,
bah si, bien sûr. Bah oui, moi j'aime bien Macouille.
C'est les Stochocobos.
Et du coup, ce n'est pas autorisé, malheureusement.
Ah, dommage.
Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, la voiture, tiens, justement, parlons un peu de l'exploration. Parce que la voiture est sur des rails, effectivement, pas de sortie de route, hein. Attention, on reste sur la route, on se gare bien quand on arrive dans un parking,
tout
va bien. Alors, il y a un mode manuel, mais c'est vrai que c'est un peu TCR changement de fil, quoi. C'est vraiment, tu restes sur la route en permanence. Est-ce que c'est pas un peu frustrant? Est-ce que c'est pas une source de frustration pour les joueurs qui s'attendaient peut-être à avoir quelque chose de plus libre?
Voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire que. D'un point de vue du joueur, moi quand j'ai découvert ça, je me dis, je pourrais aller n'importe où avec. On a vraiment
faire un peu d'off-road quoi, tu vois.
Bah, oui, mais voilà.
Ouais, mais
non,
c'est
mais
pas
vraiment.
GTA non plus quoi. Enfin après.
Non, mais surtout, t'as vu la gueule de la voiture. Est-ce que tu t'imagines en vrai dans GTA les bagnoles, tu les pètes, etc. Et t'en as rien à foutre parce que t'en prends une autre. Mais là, il y a cette voiture là. C'est la voiture de ton père. Elle est énorme, lourde, avec un paysage qui est très heurté. Alors je comprends la frustration et j'ai pu l'avoir aussi à un moment. Mais cela dit, je comprends très bien l'idée, et d'autant que tu as les chocobos qui te permettent d'avoir cette liberté-là. Et en plus, in fine, moi je trouve que ça permet d'observer le décor, d'écouter les musiques, de faire tes
petits trucs. Ça, c'est le côté, bien vu, justement. C'est le côté Red Dead où, quand dans Red Dead, tu restais appuyé, du coup, ça prenait une trajectoire automatique et tu pouvais lire ce qui se passait si tu jouais en langue étrangère. Mm-hmm. Et Red Dead était en anglais et sous-titré français. Bah, tu pouvais savoir ce qui se passait. Et là, c'est aussi le cas. Et c'est vrai que ça permet en plus de faire un petit panorama, de dire tiens,
de
qu'est-ce qu'il y a par là, tiens,
si j'allais prendre une photo, t'es compagnon.
Bah, non, mais c'est ça, ça fait ce panorama. Donc, il y a ces côtés, toutes ces conversations qu'on peut écouter. Mais il y a également en plus, on peut aussi faire des achats. Je sais pas si beaucoup ont remarqué, mais on peut très bien
on peut la customiser complètement.
Voilà. Non, faire des achats pour préparer les prochains combats, acheter des potions, les gueules phoenix. Et donc finalement,
profiter
c'est pour ça.
De ce...
Voilà,
de
moi
ce
c'est plus, c'est vrai que c'est plus devenu un problème. C'est au contraire, c'est moi, ce sont mes instants de préparation de donjons ou de grands combats en fait, les moments dans la régalia. Voilà, en écoutant la musique d'FF6, ensuite il y a Prompto qui va me dire ah, attends, il y a une super photo à aller prendre là-bas. Bah, je dis, tu sais quoi,
c'est cool ça.
Allez, faisons les fous.
On change. Oui, mais voilà.
Non mais c'est exactement ça.
Tu changes du coup de trajectoire, machin, mais comme dans la vraie vie, moi j'ai trouvé que ça contribuait au sens vraiment du voyage du jeu, qui prend tout son sens une fois que vous l'avez fini, qui rappelle un peu comme dans la vraie vie, genre c'est quand on arrive, c'est quand on arrive, mais à la fois c'est tellement beau, et puis il y a plein de discussions, et puis tu prépares tes combats, etc., etc. Ce qui fait que bon bah
mais,
moi
mais
ça m'a pas
dérangé. T'as mis le doigt sur quelque chose d'important, et d'ailleurs tu l'as bien dit dans ton test. Final Fantasy XV a vraiment le sens du voyage.
Oui.
Je trouve qu'on a vraiment voyagé. On a passé des heures et des heures avec ces garçons, c'est devenu nos potes, on s'est attaché à eux, on a ri avec eux, on s'est un peu énervé aussi avec eux quand Gladio s'énerve un peu contre Noctis.
Alors
moi je suis d'accord avec lui. Ah non, mais moi je suis plutôt d'accord avec Noctis. Enfin tu comprends leur comment dire leur raison de s'énerver, leur raison de peut-être être un peu triste ou être heureux. Ils vont au campement, ils rigolent, il y a des petits moments de vie. Enfin tu vis vraiment un voyage. C'est un beau voyage.
Et je trouve ce que je veux dire va évidemment en hérisser le poil de certains, mais je pense que c'est important. C'est avec des moments un peu ennuyeux, ou en tout cas avec des temps longs, qu'on fixe les souvenirs, qu'on fixe les choses, et qu'après ils ont du poids. Si constamment on se téléportait, il n'y aurait aucun de ces moments-là.
Et on peut.
On peut le faire.
On peut, si on se rend dans des localités, comme les parkings, etc., qu'on y va au moins une fois, par la suite, on peut,
se
téléporter. Ça prend rien du tout. Ça coûte 10 giles. 10 giles
Giles.
Oui, des giles, voilà.
10 giles, moi aussi.
Ouais, pareil.
Des giles Valentine. mais c'est super important, en fait. Et les personnes qui feront que de la téléportation et les personnes qui ont plutôt privilégié majoritairement ces longs moments qui peuvent durer entre 1 minute à 7 minutes de balade, je veux dire, une fois de plus, le jeu vous offre la liberté et donc bah tant mieux, bah vous allez faire comme vous voulez, mais moi je ne saurais trop vous conseiller de perdre ce temps là entre guillemets, parce qu'en fait il va vous apporter quelque chose après que vous n'allez peut-être pas percevoir exactement au moment où vous allez le faire. Parfois c'est un peu frustrant, mais comme dans la vraie vie, il faut, si on pouvait aller à New York, Los Angeles, Tokyo et autres, Johannesburg, ce que vous voulez, en un claquement de doigts, on serait tous, on aurait tous envie de le faire là, tous. Et puis in fine, eh ben, il n'y aurait plus de voyage.
Il manquerait,
il,
voyage.
Il manquerait quelque chose. Et ces voyages-là, bah, quand tu es 10 heures dans un avion, 12 heures dans un avion et que tu es avec ta copine, ton mec, un pote, etc., tu parles. S'il y avait la téléportation tout le temps, on parlerait peut-être moins. Il y aurait peut-être moins ces moments où, tu fais autre chose.
Bah, ouais, comme dans tu les dis, c'est le voyage qui compte, c'est pas forcément la destination.
Combien de fois, vous, quand vous avez voyagé dans votre vraie vie, et bah, ces moments qui sont peut-être un peu longs, un peu chiants, mais il s'est passé des trucs intéressants et que vous avez gardé en souvenir, et bah,
justement,
c'est FF15.
Justement, puisque c'est un monde ouvert, on va se poser un peu la question de savoir si quand on s'arrête pour prendre des photos, quand on va faire des petites quêtes, est-ce que c'est vraiment intéressant. Voilà, ça c'est un point sur lequel avec Rudy on se regarde parce qu'on est à peu près d'accord sur le fait que malgré l'attachement qu'on peut avoir au jeu, les différentes quêtes qui sont proposées, les secondaires, hein, pas les principales, ont une légère tendance à être redondantes et à pas être forcément très très intéressante. Alors il y a Madame Grenouille pour qui il faut aller récupérer des grenouilles colorées. Il y a le journaliste qui s'est reconverti diamantier, qui veut aller chercher, qui veut que vous alliez lui chercher des pierres à chaque fois. Alors évidemment c'est comme les objectifs de chasse qui permettent de gagner de l'argent, et c'est le seul moyen de gagner de l'argent. C'est peut-être le premier Final Fantasy où quand tu tues un ennemi, tu ramasses pas des gilles. Ah bah tiens, des gilles.
Hein. Bah, à la fois, cela dit, on serait extrêmement riche parce que des combats on en fait beaucoup.
Oui, absolument. Et donc toutes ces petites quêtes plus les dog tags d'un chasseur
le
aussi
Dave.
Sont pas forcément très très intéressantes quand même.
Bah, t'as raison.
Ouais, voilà.
Ah,
c'est...
Oui, oui, mais
après, ça veut pas dire qu'elles sont. Ça veut pas dire qu'on va pas les faire. Moi, j'ai 30 heures de jeu, je dois en avoir 15 sur les quêtes annexes.
Mais je te dirai un grand mais après.
Bon, mais il y a pas que des petites distractions comme ça d'empêche dans les quêtes annexes. Julien, j'ai pu voir notamment dans le live que vous avez fait avec Carole qu'il y a des trucs un peu plus, on va dire, marquants d'envergure.
Heureusement qu'il y a pas que des petites grenouilles, des chats à nourrir, parce qu'effectivement, bon, ça c'est un peu vieillot, c'est pas très intéressant, ça permet de diversifier. Mais il y a vraiment, déjà quasiment 70%, 80% des donjons sont annexes, parce que dans la trame principale, on te demande en fait de visiter peut-être, je sais pas, deux ou trois de ces donjons-là, où à l'intérieur, il y a de sacrées récompenses avec les armes fantômes qui sont très puissantes. Et les donjons sont vraiment passionnants, quoi. On plonge vraiment au cœur des entrailles de la Terre. Ils sont extrêmement labyrinthiques. Il y a une ambiance parfois un peu Resident Evil, plus sombre, etc. Ouais. Enfin, c'est vraiment cool. Et puis, on a pu le voir d'ailleurs pendant le live qu'on a fait, effectivement. Il y a parfois des quêtes incroyables. Regarde là, contre cette espèce de montagne vivante. Comment il s'appelle, Carole?
Adam Ankelon.
Adam Ankelon. Voilà.
Et qu'on connaît bien dans Final Fantasy.
Oui, c'est vrai.
Mais regarde la taille. Tu le vois à des kilomètres, elle se réveille et c'est un combat quand même qui dure entre 5 et 10 heures.
Je
veux dire. Bah, c'est extrêmement gratifiant quand t'es un vrai joueur de FF de se dire bon bah voilà, j'ai monté mes personnages, j'ai fait de l'XP, j'affronte ce truc comme un taré. Tu vis quand même des grands moments qui sont auxquels tu pourrais complètement passer à côté si tu fais que la trame principale. Si tu rushes, bah tu vivras pas tout ça.
Et on voit d'ailleurs les invocations hein, dans ce live. Il y a Titan qui arrive,
et les invocations
changent d'échelle un petit peu.
Ah bah totalement.
Les invocations en plus. Tout petit où tu te cherchais d'ailleurs, tu te dis mais attends, où je suis là, je suis tout petit devant Adam Ankelon.
Là justement effectivement on le voit aussi là,
il fait 1255 millions de fois la taille de l'écran, quoi. C'est phénoménal. Ils nous l'ont dit
6 500 000, je crois que c'était 5 400 000 et quelques.
Enfin c'est phénoménal. Alors effectivement les invocations, bah là tiens regarde, on voit le Titan. Si on peut le prendre juste un tout petit peu avant, c'est classe. Les invocations dans cet épisode là on ne les appelle pas quand on le désire. Il y a en fait des situations, genre vous avez plus de PV, vous êtes tous mal en point, etc. Ou parfois, ils arrivent, là en l'occurrence le Titan, et ils sont parfois contextualisés, comme là en l'occurrence, regarde la classe du truc. Quand tu vis ça, bah
c'est
jubilatoire, quoi.
C'est
ah
ça.
Oui, complètement. Ouais. Et du coup, bah, les invoques, quand elles arrivent, sauf contre des situations très particulières comme ici, c'est synonyme de fin du combat. Hein. C'est,
oui, en général, c'est
elle
très
te nettoie
punitif,
la map, mais genre bram. Et c'est ultra gratifiant, quoi.
Bah oui.
Jubilatoire.
Parce que c'est pas plus mal, parce que dans les anciens FF, c'est quelque chose qu'on utilisait presque comme un sort de magie
foudre.
Invoquer, voilà.
Quoi.
C'était exactement ça, on enchaînait ça, tandis que là, j'ai l'impression qu'il y a réellement.
Puis c'est spectaculaire.
C'est ça, et puis ça fait une petite surprise. Tu te dis, oh, est-ce que je vais avoir une invoque ou pas? Et encore une fois, t'es pas obligé, puisque tu peux appuyer, il faut maintenir L2. T'es pas obligé. Hein. Alors effectivement, Plume le disait tout à l'heure, ça peut faire. Disons que tu peux mourir, quoi, si tu l'utilises pas au bon moment. Mais en tout cas, c'est un choix que tu as.
Très bien.
Et ça, c'est quand même classe.
Ça fait partie des choses. Maintenant, on va faire une petite transition vers la partie technique du jeu. Hein, puisqu'on a parlé du monde ouvert, évidemment. Alors, c'est un grand monde qui est très joli. Un petit peu vide, peut-être. Même s'il y a quand même de la vie et ces monstres qu'on peut choisir de croiser, d'affronter ou pas. Et
mais moi,
même
je trouve
en girafe,
que ça colle,
comme on dit tout à l'heure.
Ça colle à l'univers. Ça colle à l'univers. On parlait avec Julien de tous les mondes ouverts qu'on a pu explorer dans les jeux vidéo. Par exemple, tu peux pas comparer à Los Santos ou à San Francisco dans Watch Dogs 2. Tu peux pas comparer. C'est désertique, c'est la forêt. Donc moi, je trouve que c'est normal qu'il n'y ait pas énormément de monde. Et puis, si tu as envie d'avoir plus de monstres, tu as un sifflet.
Et puis... Alors, je ne sais absolument pas si je l'ai dit ou pas, parce que pour la petite anecdote, nous avons eu un crash de ce podcast. Donc, peut-être que je l'ai déjà dit, donc j'allais aller assez
vite. Les éventuelles répétitions.
Mais ce FF15 concrétise l'un de mes fantasmes de joueur lorsque j'ai vu Shadow of the Colossus, qui était sans aucun temps de chargement, sans un lancement de cutscene ou quoi que ce soit, à loin, à l'horizon, à 2 km, voir une créature gigantesque, c'est-à-dire, oh putain, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Attends, je vais aller la voir, et elle est face à moi. Et là, ça arrive plusieurs fois, et quand c'est le cas... Mais tu te prends une baffe phénoménale.
Mais bien sûr.
Et puis on voit là en vidéo hein, la gestion jour-nuit, la brume,
la météo qui change,
l'humidité, tout ça tu le ressens et c'est vraiment bien rendu.
Il y a plein de lieux en plus intéressants. Il y a pas que il faut se forcer entre guillemets, même pour ceux qui sont pas forcément fans
sortir
de ça.
Des sentiers battus,
exactement et aller par exemple. Alors moi non plus je ne sais pas si je l'avais dit, mais je le dis à nouveau. On a plein, on parlait des quêtes annexes qui étaient pas terribles, les chasses, mais il y a aussi les donjons qui sont très bien. Puis il y a aussi
les chasses qui
des
nous obligent à faire des allers-retours en une seule
fois.
Ça c'est chiant.
Mais on a des lieux aussi comme par exemple donc le fourré de, je ne me souviens plus le nom, pas Macalania, ça c'est dans le 10, mais de Nalan ou un truc comme ça.
De Dana, non, c'est pas ça.
Non,
je sais plus, il y a un truc de Dana.
Et où tu peux aller que uniquement, enfin, c'est le level 35 est conseillé et on y est allé une fois avec Julien, on n'était pas assez fort, donc on est revenu beaucoup plus tard et là c'est très forestier avec plein de nouveaux monstres qui débarquent. Enfin, il y a plein de lieux.
Il y a vraiment beaucoup de contenu en plus.
Justement, et ça c'est annexe aussi parce que t'es pas obligé de le faire. Mais tu peux y aller.
Il y a des zones secrètes même avec des endroits inaccessibles si vous n'avez pas la régalia volante qui s'obtient vraiment à la fin du jeu et que vous ne pouvez ne pas du tout avoir si vous faites que la quête principale. Donc en fait,
il faut pas.
Vraiment, si votre délire c'est juste je rush le jeu, je fais la quête principale, vous allez quand même, il faut le savoir, enfin vous avez tout à fait le droit de le faire et machin, mais vous allez passer à côté de plus de 50% du contenu du jeu et de très nombreux lieux aussi que vous ne verrez jamais ni d'Ève ni d'Adam. Ce serait quand même dommage.
Non,
vous ne verrez jamais ni d'Ève ni d'Adam. Je ne sais pas si cette expression existe. C'est connaître ni d'Ève ni d'Adam.
Oui, bah écoute, je l'ai adapté. Voilà.
Ok, adaptation.
Et en même temps, Adam et Ève qui ont quand même été à l'origine de l'espèce de débat qui n'a rien à voir.
Ouais, c'est ça. Non, mais quand on parlait aussi technique, moi je pense qu'il y a vraiment aussi. C'est tout cet écosystème complètement persistant et pertinent en fait qui
cohérent,
est présent.
Hein.
Voilà, complètement cohérent, c'est ça, dans cet univers-là. Donc on parlait beaucoup de forêts, de caves, de villes. Vous allez avoir donc tous ces monstres, tous les personnages en fait qui vont être présents, qui vont être extrêmement bien adaptés en fait à tous ces lieux-là. Et pour la petite anecdote, par exemple dans mon cas, je faisais un combat contre une sorte de mammouth qui s'appelle Garula, je crois, ou Gadula. Et en plein combat, il y a eu un prédateur en fait naturel de ce mammouth qui est venu s'en prendre justement à ma proie. Voilà. Et donc il y a plein de choses comme ça et on voit en fait réellement cet univers prendre vie devant nous. Et c'est vrai que justement même dans les combats, on a presque envie de dire, on se met dans un coin, on utilise l'éclipse justement, on regarde de loin et on fait.
Et on contemple en écoutant Gracia Mundi, qui s'appelle maintenant Vals di Fantastica, il me semble. Mais c'est super beau. Et comme le disait Julien, t'as des musiques, des morceaux très variés pendant les combats. Donc à chaque fois, tu dis attends, celle-là, on la connaissait pas. Ah, celle-là, je l'avais pas encore entendue. Et juste, je trouve que ça apporte encore plus de grandeur.
C'est un jeu généreux. C'est un jeu qui va donner plus à ceux qui vont lui donner plus de temps, plus d'attention, plus de volonté d'aller farfouiller au fin fond de la map, qui, on l'a déjà dit, même si elle est peut-être un peu vide, réserve beaucoup de surprises, beaucoup de petits endroits un peu mystérieux.
Surtout la nuit.
Il faut c'est pas facile la nuit. Il faut sortir des sentiers battus, et souvent, pas forcément de manière incroyable, mais souvent il y a un petit truc à trouver, un petit lieu caché, etc.
C'est tout à fait vrai ce que tu dis, quand parfois ce sont des petites choses, mais ce sont des petites choses qui peuvent donner encore plus de saveur à l'aventure. Par exemple, tu vas te balader puis tu vas trouver du poivre, enfin des épices, je sais plus, à un moment donné voilà.
Et Ignis ensuite réagir en disant ah bah c'est bon, j'ai une nouvelle idée de recette.
Et il réagit toujours de la même manière, au passage.
Non, ça c'est
voilà, avec toujours Gladiolus qui arrive, j'aimerais bien manger ça.
Ouais, il dit tiens, je vais faire, ça me donne une idée de nouvelle recette. Oh, j'ai hâte de la goûter.
C'est vrai que c'est toujours la même animation, mais ça mis à part, ensuite on revient, on fait un camp ensuite, même à l'extérieur justement avec ses amis, on fait sa petite tente et là il y a Ignis justement qui nous fait ce
bon petit plat
avec cet ingrédient. Voilà. Non mais ça c'est génial.
Qui sont indispensables.
Il y a quelques séquences de discussion, etc. Effectivement, tu as raison qu'on retrouve
qui se répète
un peu répété.
En revanche, je pense que ne retenir que ça serait vraiment une erreur.
Ah, mais
parce que
le
nombre de dialogues qu'il y a in-game, qui pour moi est le cœur de l'intérêt de ce jeu, différents, contextuels, le nombre de fois où vous allez vous rendre compte de quelque chose ou remarquer quelque chose, vous allez vous dire « Ah tiens, machin !» Et tac, les mecs, Prompto, Gladios ou Ignis, va faire une petite réflexion, va soit vous devancer, soit vous accompagner dans votre réflexion. Moi, ça me l'a fait plein de fois et j'ai fait « Ah putain, ouais, je me faisais la même réflexion et tout. » Bah ça, c'est cool, c'est rare et j'irai même plus loin. Hormis dans des jeux Naughty Dog, je l'avais jamais vu.
Ouais, puis en plus c'est drôle, quoi. Il y a des moments où, par exemple, sans faire exprès, tu sais, tu vas sans faire exprès ou en faisant exprès, tu mets un coup d'épée comme ça dans le vent, et puis t'as Gladio qui va dire waouh, fais attention, t'es devenu fou. Et puis tu réponds, et puis t'as Noctis qui répond, j'ai pas fait exprès, quoi.
Ouais, voilà, non, c'est ça, des petits trucs comme ça.
Ouais,
et même
marrant.
Dans les donjons, d'ailleurs, comme tu parlais dans le Naughty Dog, moi je vous conseille vraiment parce qu'il y a l'un des premiers donjons justement là où il y avait plein de gobelins niveau 7 en fait pour récupérer la première arme fantôme.
C'est dans une sorte de.
Exactement, une sorte de grotte.
Avant un camp, enfin... Ouais, ouais.
Voilà, c'est ça. Et
j'ai couru.
Non, mais c'est très intéressant. Vas-y, moi, tailler le truc. On
non,
a rien
non,
compris.
Mais dans le sens. Non, effectivement.
Je
enfin,
veux
c'est
pas
dans
dire,
l'un des premiers.
Tu es d'accord sur un truc où rien n'était dit.
Oui, on peut pas non plus spoiler. Mais c'est dans l'un des premiers donjons avec des gobelins niveau 7.
C'est le premier, bébé. Le premier, on a dit.
Je ne comprends pas ce que vous dites. Parce que vous comprenez d'un truc où vous n'avez rien dit.
Non, mais c'est dans l'un des premiers donjons. Là, j'ai encore rien dit. Ce que je comptais dire, en fait, c'était que par rapport à tous ces dialogues, moi, c'est vrai que le premier réflexe que j'ai en tant que joueur, c'est que je voulais absolument aller au fond. Et donc, j'ai couru. Et le problème, c'est qu'il y a plein de dialogues, en fait, que, ben, justement, qui se généraient au même moment. Et
donc, branchement, ouais.
Ouais, voilà. Et que, donc, quand je parlais. Non, le problème, c'est que, par exemple, je suis passé devant un générateur, mais moi, j'ai couru, je voulais pas l'activer. Et donc, finalement, ils ont dit tiens, il y a un générateur, activons-le. Je suis revenu, je l'active. Et le dialogue qu'ils étaient censés dire avant, ils l'ont redit après. Donc même quand vous explorez des donjons, j'ai envie de vous dire, marchez. Non, non, ne courez pas, marchez, parce que ils ont mal géré quand même cette histoire de dialogue.
Mais c'est super bien fait parce que tu vois, par exemple, petite anecdote, tu vas allumer le générateur et puis tu vas te promener, puis au moment où t'arrives tout au fond, machin là, la lumière s'éteint.
Oui.
Et, c'est vraiment
gobelins,
génial à cause des gobelins. Oh là là, ils sont vraiment classe. Mais je t'en prie.
Faut faire le bilan technique, messieurs dames, quand même.
Bah,
vrai bilan technique, parce que ok, c'est joli,
il y a des cheveux qui aliasent un peu craquants,
les cheveux, c'est quand même les cheveux, moi j'ai pas aimé.
Il y a des petites chutes de framerate, bon, je trouve très rare, mais bon, voilà, elles existent. Sur PS4 Pro, il y a vraiment pas de gap phénoménal, malheureusement. Vous le savez, hein,
Sauf que ça scintille moins, moi
ça scintille un peu moins, oui, dans la résolution un petit peu meilleure. Il y a une option qui s'appelle finesse qui pousse un petit peu aussi la profondeur de champ,
et
une option fluidité qui elle monte le framerate plutôt dans les alentours de 40-50 images secondes, là où normalement il est plutôt à 30. Mais le vrai patch entre guillemets PS4 Pro, il arrivera en décembre à une date encore inconnue. Et puisque vous savez, avec Carole, on l'avait vu nous au TGS sur PS4 Pro, on avait halluciné, c'était vraiment très beau, etc. Ce n'est pas du tout le cas actuellement. Enfin, on n'a pas revu ce qu'on avait vu au TGS. On avait d'ailleurs posé directement la question à Jimmy Tabata qui avait fait mine dans un premier temps de dire la version PS4 Pro, je sais pas trop. Quand je lui avais dit non, mais si, on l'a vu au TGS, il a fait ah oui, bon, ce que vous avez vu, c'était une démo de ce qu'on souhaiterait faire. Donc pour l'instant, malheureusement, ce que nous on avait vu n'existe pas. J'espère que ce sera le cas pour la version, le vrai patch de décembre, parce que franchement, c'était vraiment beaucoup, beaucoup plus beau.
Non, mais même là quand même, il y a eu des moments où justement, notamment, on était dans la Regalia et où on laissait donc la conduite automatique et où on observait un petit peu, il y a quand même des moments de grâce.
Oui,
il y a
oui.
vraiment des
même
endroits
déjà
où tu dis.
Classique, hein.
Voilà, oui. C'est beau, c'est super beau. Et puis de toute façon, j'ai envie de dire que l'aventure, elle est tellement incroyable qu'à un moment donné, l'aliasing, là, au fin fond, dans la montagne, on s'en tape.
Non, tu parles. Bon, l'aliasing, effectivement. Il y a quand même quelques petits bugs encore si elle a par
J'allais
exemple
y venir
moi...
parce que le bilan technique c'est pas que le visuel, c'est aussi des problèmes de pathfinding par exemple, des problèmes de bugs. Alors certains ont eu droit à des bugs, il y a une vidéo qui a été postée il y a pas très très longtemps où à la fin d'un combat il y a des Magitek Armor qui arrivent et en même temps c'est pendant une cinématique, donc pendant la cinématique en fait t'as tous les Magitek Armor qui s'excitent comme ça sur Noctis et les autres, alors Noctis qui marche en t-shirt tranquillement sur la route avec tous les impériaux qui s'excitent.
Non mais tous les jeux ont des bugs,
tous
les
jeux
ont
des bugs,
tous les jeux open world en plus.
Voilà. J'ai eu quelques problèmes de pathfinding où personne ne me rejoignait pendant un combat parce que j'avais fait l'erreur de sauter au lieu de prendre le chemin qui était balisé. Mais le pire, c'était quand même un griffon que j'agresse, que je frappe de toutes mes forces avec tous les potes, on y va, allez, on va le défoncer. Et puis à un moment le combat s'arrête, en fait les notes apparaissent à gauche de l'écran.
À chaque fin de combat il y a des notes en fait.
Je fais quoi? qu'est-ce qui se passe? Le combat reprend, mais sauf que sa vie remonte pendant
ce temps-là.
Tu t'es
pas trop éloigné?
Non, non, je me suis pas éloigné du tout. J'étais en plein corps à corps et je ne sais pas pourquoi à ce moment-là.
Du coup, même si on s'éloigne, le combat n'est pas censé. Ne reset pas en fait. La vie du monstre ne réapparaît pas. Donc non, c'est pas un problème.
Moi, il se régénérait un petit peu à chaque fois.
Si tu sors du combat, le monstre aurait l'air
de faire un combat, de devoir sortir justement pour récupérer un objet et de revenir et sa vie n'était pas remontée.
Mais c'est un bug. Non, mais c'est temporaire, je crois.
Après, il y a des petits bugs marrants aussi, des petits bugs de collision.
Oui, voilà.
À un moment donné, je me souviens, on était à Alticia et puis on a vu deux nanas. Elles étaient. Non, c'était pas Alticia.
L'argent,
elles étaient dans le banc. C'est-à-dire que c'est comme si on est dans le.
Voilà. Franchement. En tout cas, nous sommes partis. On n'a rien eu de majeur. On a eu un truc. Hardin qui avait du mal à trouver son chemin pendant quelques secondes, mais enfin, ça s'est résolu très vite.
C'était marrant.
Mais ça nous a fait rire, ouais. Mais c'est tout. Hein. Bah après, évidemment, bon, c'est toujours pareil sur un open world.
Ça
on verra popper sur les internets
oui.
divers bugs. Il se trouve que bah, nous, on peut juger que ce qu'on a vu. Et donc là, sur 4 personnes, 4 expériences, il y en a quoi? On a 4-5 trucs un peu chelous.
Oui,
sur cumulé plus de 120 heures de jeu. Bon.
Mais rien qui oblige de rebooter la machine. Enfin, dans mon cas, par exemple.
Oui, voilà, il n'y a pas de défaut comme on avait pu voir, par exemple, dans Assassin. Moi, je me souviens, je sais plus dans lequel c'était, il y avait vraiment un bug de script où le mec te disait suis-moi, je vais te montrer je ne sais plus quoi, un passage secret
ou...
et puis le mec ne partait pas puis tu restais là à attendre, ok je veux te suivre, allez vas-y, et le mec partait pas. Ça c'est énervant.
Effectivement.
Les mondes ouverts.
Ouais.
On n'a pas parlé des musiques. On va peut-être faire un petit point dessus parce que ça fait partie des points
divine,
les plus forts du jeu. On dit souvent que dans un jeu, c'est 50% de l'expérience. Là, ça constitue même un peu plus. Hein. Yoko Shimomura, c'est juste surdéchiré.
À son summum, il y en a énormément. Oui. Et l'écrasante majorité ne se contente pas d'être bonnes, elles sont marquantes, quoi. Elles sont exceptionnelles, elles sont extrêmement bien composées, orchestrées, enregistrées. Elles ont toutes, je trouve, une espèce de montée en puissance en plus, c'est-à-dire que dans chaque mélodie, il y a 2-3 mélodies quoi, qui s'étoffent, etc. Et alors vraiment sur les combats, moi je les trouve remarquables.
Jusque dans la... Tu parles des combats, moi je voulais parler de la pêche. Ouais. J'ai jamais eu un thème aussi épique pour aller pêcher une carpe.
Ah ben, justement, moi j'ai une question à toutes les personnes qui écoutent ou regardent ce podcast. Est-ce que vous ne trouvez pas que la musique de la pêche de FF15 ressemble énormément à la musique des combats de Chrono Cross? Je veux votre avis.
À vous nous dire.
Pour moi, c'est quasiment la même. Et donc,
non, mais donc
la pêche est épique.
Oui, non,
et le reste, à chaque fois.
Les musiques de combat.
Je rejoins Julien, bien évidemment. Les musiques de combat sont simplement magnifiques. Moi, j'attends l'OST pour pouvoir l'acheter. Mais
on peut regarder sur Gameblog le concert qui a été donné à Abbey Road.
Il
n'y
a pas de musique. Il n'y a qu'une sélection de musique, mais ouais.
Elle est vraiment incroyable. Et
c'est
compositrice
Yoko Shimomura.
Yoko Shimomura qui a beaucoup bossé sur Kingdom Hearts essentiellement.
Parasite Eve
ouais, absolument.
Moi, je trouve qu'elle surpasse. C'est pas le même style, mais en même temps, fatalement, on les compare. Mais je trouve qu'il y a des moments quand même où elle surpasse Uematsu.
Moi, vraiment, faut se positionner, faut dire ce qu'on pense. Pour moi, c'est l'une des plus grandes BO de l'histoire du jeu vidéo, quoi. C'est par son volume, son ampleur, sa puissance, sa force, son orchestration, tout. C'est-à-dire que toutes, je sais que ça y est, c'est fini. Je les entendrai dans 10, 15 ans, 20 ans, etc. Je saurai instantanément que c'est FF15.
Il y a des thèmes.
Ça veut dire qu'il y a presque plus de thèmes dans le jeu vidéo. Il y a que de l'action music, quoi. Tu sais, des trucs un peu épiques, machin, mais que t'as déjà entendu 700 fois. Là, elles ont une identité totalement personnelle. C'est d'ailleurs une identité. Et elles sont magistrales. Voilà,
ouais, mais en plus.
Tu peux les chantonner.
Tu aimes les jouer dans ton bar.
Tu vois, c'est Vals dit Fantastica. Tu vois qu'elle est bien, c'est la
seule. D'ailleurs, il faut acheter le MP3 dans le jeu. Il coûte pas cher. Il coûte même pas, je crois, 100 guilds.
C'est 100 guilds.
C'est l'objet qui vous permet justement.
Le baladeur.
Oui, voilà, le baladeur MP3 qui vous permet d'écouter tout le temps justement la musique du jeu et des anciens Final Fantasy.
Alors, pas la musique du jeu justement. Ils n'ont pas poussé ce vice-là. Ils vont te faire acheter la BO.
Ouais, ouais.
Non, c'est
que les anciens.
C'est du Kingslave, du Afrojack, que je n'aime pas trop, et les anciens FF. T'as une sélection d'anciens.
T'as une sélection, voilà. Ils y sont pas tous. D'ailleurs, tu vois, la sélection, j'ai pas trop compris. Par exemple, dans FF10, qui est, vous l'aurez compris, mon préféré, il y a pas tous Zanarkand, qui pour moi est la plus belle. T'as Souté qui
c'est pour faire acheter.
Je crois qu'il y a 260 morceaux des anciens FF, plus d'autres.
Moi, j'ai mis le thème de FF13 en boucle.
Ouais, non, mais elles étaient magnifiques, les musiques du 13. C'est ce qu'il y a de mieux dans.
Et effectivement, au début du jeu, on peut le faire que dans la régalia, mais plus tard vous pouvez le faire en vous déplaçant.
Absolument.
Et
plus tard, non, avec le patch maintenant on peut avoir le baladeur assez tôt, hein.
Ah bon,
Oui,
c'est possible. Hein.
C'est pour, d'où c'est pour ça que je les ai achetés baladés en même temps. Comme ça, vous pouvez les écouter tout le temps, même
dans
en
la,
marchant.
Dans la plaine, dans la forêt, la nuit, voilà.
Et,
en observant.
Et puis les anciennes musiques, mine de rien, elles t'apportent ce côté Madeleine de Proust où quand tu t'es dans la voiture et machin, et tu regardes et tu te rappelles des souvenirs et tu te dis oh, c'était incroyable. Et effectivement, plus vous êtes un ancien joueur de FF, plus ça aura de l'impact pour vous. Parce que ça,
mais ce qu'on peut dire, en tout cas, par exemple, si on compare vraiment les compositions de Uematsu avec Shimomura, c'est vrai que ce qu'elle a de plus, lui il était plus dans le touchant, dans le mignon, dans le romantique. Elle, je trouve qu'elle va plus, comme dirait Julien, dans le divin. C'est des musiques d'église, quoi. C'est très cinématographique, en fait, beaucoup plus cinématographique que les musiques d'Uematsu.
Mais
quoi.
C'est ce vers quoi envie de tendre Final Fantasy XV, je pense.
Complètement.
Et heureusement qu'on va vers quelque chose comme ça, parce que ce côté un petit peu touchant et émotionnel dont tu parlais, ça faisait presque midinette, en fait, dans certains points. C'est ce côté-là aussi qu'on reprochait énormément au RPG japonais jusqu'à aujourd'hui. Hein.
Ouais.
Enfin voilà, tandis que là,
c'est pas
on
du
va
tout japonais FF15.
Exactement.
Ça veut pas dire que les anciens FF l'étaient, même si je trouve dans le 13, il y avait vraiment des personnages 13, et des situations qui étaient ridicules.
Non,
honnêtement, je trouve qu'il n'y a aucune situation ridicule. Il y a des moments, des petites séquences où c'est un peu plus cute ou mais c'est mignon aussi. Mais c'est pas.
Je pense que tu dois parler de Prompto, je pense, de la plupart des interventions, mais chacun justement.
Pas tant que ça, parce que Prompto, je trouve qu'il est vraiment.
Il aime bien
touchant.
Prompto.
Ouais, j'aime beaucoup Prompto.
Ah, moi j'aime Prompto.
Mais non, un peu. Certains moments de Prompto et Cindy, par exemple. Le reste.
Putain. Ah, Cindy et son accent ricain.
Mettez le jeu en français. Parlons-en tout de suite, puisqu'on parle des voix.
Oui. Ouais.
La version française est remarquable, vraiment. C'est évidemment, il y a certains moments, des intonations qu'on aurait aimé plus ceci, moins cela, etc. Mais il n'y a pas de faute de goût, je trouve, majeure sur l'intégralité du jeu. Elles sont vraiment dedans, elles ont quand même un avantage.
C'est ça qui
La lip-sync n'existe pas parce qu'elle a été faite sur la version anglaise, donc ça c'est vraiment dommage. Mais je veux dire, c'est pas la faute des voix.
Enfin, c'est dommage, excuse-moi de t'interrompre, même pour ceux qui avaient envie d'y jouer en japonais, vu que la lip-sync a été faite sur la version anglaise, donc il y aura aussi ce problème également là sur les voix japonaises.
Oui, alors que tu vois, moi j'ai envie de le refaire, tout recommencer et faire en japonais. Non.
Mais c'est un avantage.
Et sinon ça sort un peu du truc.
Oui, complètement.
Et c'est un avantage énorme, c'est que si vous maîtrisez pas parfaitement bien l'anglais, comme il y a beaucoup de fois vous êtes dans l'action et machin, vous allez devoir lire des sous-titres. Là il n'y a pas ce problème. Vous êtes peut-être nombreux à ne pas parler quand même couramment japonais. Donc pareil, vous allez devoir lire des sous-titres.
Des avantages à jouer en
français, vous pouvez vous concentrer sur tout le truc et entendre vos potes en train de parler, et tout, combattre.
L'immersion est totale, est d'accord.
Alors on parlait à l'instant du fait que ce n'était pas un truc japonais, qu'il n'y avait pas de vanille qui courait n'importe comment dans les couloirs.
Ah, c'est Hope surtout.
Hope, j'avais envie de chuer tellement il était con.
Justement, c'est transition directe vers le dernier point de ce podcast, ou l'avant-dernier si on ne fait pas abstraction de nos avis personnels, c'est l'histoire et les personnages. Parce que finalement, qu'est-ce qui fait que c'est un bon Final Fantasy ? Carole. Puisque Julien t'a montré
la main. Moi, je me suis déjà beaucoup exprimé. Quoi.
Pour moi, ce qui fait de ce Final Fantasy un Final Fantasy peut-être meilleur que beaucoup d'autres, j'irais presque à le mettre avant FF10. Pourtant, moi, FF10, c'est vraiment, attention, encore une fois, c'est mon bijou. C'est qu'il est terriblement humain. Donc ce sont ces personnages, leur rapport, c'est une très belle histoire d'amitié, mais souvent Final Fantasy ce sont des histoires d'amitié, il y a toujours une histoire d'amour impossible, mais là c'est, pour moi c'est vraiment une très belle histoire d'amitié, on se retrouve en ces personnages, on a une histoire qui est dure, qui est pleine de responsabilités. Comme le disait Julien dans son test, et je suis absolument d'accord, et on en a beaucoup parlé tous les deux, c'est vraiment le passage de l'âge l'adolescence, l'insouciance à l'âge adulte, parce que Noctis au départ il est un petit peu nonchalant, etc. Puis après tu vois qu'il va commencer à prendre un peu. D'ailleurs,
il va devenir roi, et ça pose beaucoup de responsabilités.
C'est ça. Et t'as d'ailleurs plein de moments où Gladio, qui est pas très content, qui est un peu le grand frère, il lui fout un peu la pression, et c'est un vrai coup de pression puisque tu le prends vraiment en force dans le jeu. C'est-à-dire qu'il te met ce coup de pression et toi ça te motive. Donc du coup, le Noctis est un petit peu plus fort. Donc je trouve que ce sont vraiment les personnages, ils portent le jeu. Mais vraiment, tous les quatre, et tous les quatre sont importants. Il n'y en a pas un plus important que l'autre pour moi. Ils portent le jeu vraiment sur leurs épaules. C'est, pour moi, c'est vraiment c'est ce qui fait que le jeu est humain et marquera les esprits pour de longues années.
D'accord, mais en ce qui concerne l'histoire en elle-même, est-ce qu'elle est vraiment intéressante ? en dehors du dénouement, qui visiblement est quelque chose de marquant avec Rudy et moi n'avons pas encore
vu. Complètement, on dirait rien.
Une des meilleures
fins,
si ce n'est la meilleure fin d'un Final Fantasy et l'une des plus grandes fins d'un jeu vidéo. C'est une fin qui t'habite, c'est une fin qui te reste en toi, c'est une fin qui résonne, c'est une fin qui transcende tout ce que tu viens de faire pendant des dizaines d'heures. Voilà, elle est simple, elle est claire. Elle est poignante, elle est tout ce qu'elle aurait dû être, à mon sens. Et ça, je veux dire, si tu n'en tiens pas compte, c'est qu'il y a un problème, quoi. Je veux dire, c'est quand
t'as
un
tel
truc.
que
tu prends un iceberg dans ta poire comme ça, tu peux pas ne pas en tenir compte. Une fois qu'on a dit cela, il y a de sacrées carences. Et l'histoire principale.
C'est même pas des carences,
elle est très heurtée.
Il faut un director's cut.
C'est ça.
Parce qu'elle est heurtée, il manque des bouts, il y a des arcs narratifs qui sont pas assez développés, voire même cutés, très clairement.
Ah bah, on peut parler par exemple de ce qui se passe avec le roi Régis, qui devrait être quelque chose d'épique, quelque chose d'incroyable. On le voit dans Kingsglaive, oui, évidemment, mais là dans le jeu, on voudrait aussi le ressentir parce que, ok. Quand on part avec Noctis et que Régis arrive, te met la main sur l'épaule, fiston, machin, c'est cool et tout.
Voilà,
exactement. Il lui dit toutes ces belles choses qui peuvent être poignantes, mais sauf que le développement de Régis en lui-même, il est quasi inexistant dans le jeu. Luna, pareil.
Alors Luna, je trouve que
tant d'apparitions à l'écran.
Alors beaucoup d'apparitions en plus dans des quêtes annexes.
Oui, mais
et je trouve à la limite pour Luna. Ça, on ne spoilera pas,
ouais.
Mais c'est presque compréhensible qu'on la voit pas plus. Régis, je suis assez d'accord. Luna, c'est important que quelque part qu'on ne la voit pas beaucoup.
Et puis il y a des ellipses qui sont pour moi, mais
moi je parlerai plus d'autres personnages, mais je veux pas spoiler.
Tellement incompréhensible.
Il y a certains personnages qu'on te présente, qu'on te montre, sur lequel tu te dis bon bah il va avoir quelque chose.
C'est celui dont tu parles.
Ah, bah il y en a deux. Il y en a deux.
Le
honnêtement.
Le premier là, on a dit ah c'est ah ok.
D'accord. C'est Corne.
Non.
Peut-être.
Ouais
non.
Alors ça oui alors il y aurait alors trois. non, mais il y en a deux, je vais pas les nommer. Mais alors franchement. Ils ont été là juste histoire que de te montrer un personnage, quoi.
Ouais.
C'est totalement et c'est frustrant. Je suis super d'accord. Et dans cette fameuse deuxième partie du jeu qui quitte l'open world pour être beaucoup plus dirigiste, et je veux dire, c'est le jeu qui prend le train au premier sens du terme. Hein. Tu prends le train, mais enfin, il n'y a pas que ça. Il y a le début de cette deuxième partie est franchement incroyable à Altissia et un peu ce qui se passe après Altissia. Après, t'arrives, je veux dire, c'est pas du spoiler, vous vous en doutez bien, à Tenebrae, qui est l'une des zones prises par l'Empire Niflheim. Et là, pour moi, le jeu s'essouffle totalement pendant 2-3 heures, se perd, enfin, c'est chiant.
Oui,
ça pourrait être génial, et ça devient putain de chiant. Et rebondit pour le dernier run final vers les cieux et plus encore. Mais il y a vraiment effectivement ça, et tu te dis, et tu le sens, et tu le vois. Et je vous l'ai dit dans le test, je crois que j'ai même utilisé le mot Frankenstein, quoi. C'est, oui, tu sens la créature sur laquelle il y a dû avoir des coupes, des rajouts. Il y a clairement un truc. Moi, j'en ai parlé avec.
Tu sens le développement, tu sais, quoi.
Mais il y a vraiment des passages qui ont dû être faits ou, et pas menés à terme, et c'est extrêmement dommage. Ok, c'est vrai. Après, je trouve que bon. Quelque part, une fois que tu le zappes de ta tête, te reste quand même des choses tellement plus puissantes que bon.
Mais c'est dommage pour un jeu de cette ambition de pas réussir justement à concrétiser tout ce qui est dans la partie jeu, dans la partie visuelle, mais pas réussir à concrétiser au niveau de l'histoire. Tu vois, on a Final Fantasy VI qui tourne là juste derrière nous sur la borne, qui lui, tu vois, il se permettait des choses en développement de personnages, en termes d'histoire principale, et il les mettait en scène. Il manque des trucs, quoi.
Ah bah, c'est exactement ce qui manquait aussi à MGS5. Et pourtant, MGS5 comme FF15, c'est marrant, c'est deux jeux japonais, vont tellement plus loin, t'apportent tellement plus que 90% de la production vidéoludique des, je sais pas, 5-6 dernières années, que leur en tenir, le souligner, oui. Un grand oui. Ne pas le faire serait malhonnête. Ce serait trahir les lecteurs et les joueurs, etc., qui se diraient, mais attendez, il n'y a pas ça, ça m'énerve, ça me frustre, etc. Vous en avez même pas parlé. Attendez, qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc en parler, bah, vous pouvez lire le test. Tout est indiqué. On vous le dit encore une fois dans ce podcast, si vous n'avez pas lu le test, le cachet serait malhonnête. En revanche, lui en tenir profondément rigueur, je trouve pas. Parce que à la fin, moi, ça fait maintenant plus d'une semaine, une semaine que j'ai fini le jeu. En vrai, je l'ai déjà presque un peu oublié, et par contre, j'ai en tête tellement d'autres choses.
Bon, bah écoutez, on va faire le bilan personnel de tout le monde.
Ah, très bien.
Je vais vous demander à chacun, qu'est-ce qui fait que vous vous y êtes vraiment accroché? Qu'est-ce qui fait que.
Attends, juste un tout petit truc. FF15, c'est un jeu qui rêvait d'être grandiloquent, d'être spectaculaire, d'être ultra épique. Et finalement, c'est peut-être dans ces moments-là qu'il réussit le moins. Et c'est dans les moments les plus intimes, autour d'un feu de camp, avec tes personnages, à se balader in-game, etc., qui réussit vraiment à tutoyer le divin. Et c'est paradoxal, parce que par exemple, la première rencontre avec le titan, etc., on l'a vu, on l'a attendu, on l'a rêvé grandiose. Et moi, je la trouve un peu frustrante à jouer, pas extrêmement gratifiante, manette en main. Bah, c'est un peu dommage. Mais par contre, le reste.
Le moment où tu l'aperçois peut-être de loin alors que t'es en train de courir.
J'ai perdu plume.
Non, appuie sur le bouton pour en mettre en main.
C'est dommage. C'est un truc important. Mais...
Donc, qu'est-ce qui fait qu'un jeu comme ça est aussi addictif? Moi, j'en suis à 30 heures de jeu. Ah ouais, c'est vrai, c'est incroyable. Alors, non, mais alors. Vos avis personnels, toi on sait, tu lui as mis la note de 9 sur 10, indispensable.
Et une fois de plus, je n'ai cessé de répéter qu'une note, bon, très bien.
Parce qu'il faut un marqueur, subjectif.
Et parce que c'est le mot qui va avec, et que ce jeu est fantastique, et que même, il aurait flirté avec le culte, mais il y a quand même trop de défauts, on va dire, ancrés en lui, pour empêcher ça. Mais une fois de plus, je le répète, je le redis, s'il vous plaît, lisez ce que nous écrivons, lisez ce test, ainsi qu'évidemment les autres, car tout ce qu'on veut exprimer est à l'intérieur de l'écrit et pas juste la note. La note, c'est une cristallisation d'une émotion, le texte, il est là pour vous, c'est ça le plus important.
Carole.
Bah moi, ce qui fait qu'il est fantastique, c'est que vraiment, t'as un monde gigantesque où t'as envie d'y rester, quoi. Tu peux plus lâcher le jeu. Et puis surtout, voilà, un scénario que je trouve, même s'il est heurté, qui est humain. Qui offre une fin juste phénoménale avec des scènes, des moments phénoménaux et surtout des personnages humains. Touchants, qui nous ressemblent, qui deviennent petit à petit nos amis, nos frères d'armes. Et voilà, donc pour moi, c'est vraiment un des Final Fantasy qui, en plus, réalise, comme disait Julien aussi, nos fantasmes de joueurs, un monde ouvert, gigantesque, avec mille et un secrets dans la saga Final Fantasy. C'est ce qu'on attendait tous et je trouve qu'il fait le job brillamment. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment le côté humain, les personnages, les dialogues, tout ça qui fait que moi, je lui aurais carrément mis un 10, quoi, parce que moi, le côté technique, les quelques petits, les petits défaut, même le côté un peu plus dirigiste dans la deuxième partie du jeu. Au final, en fait, quand tu fais le bilan, c'était magique. Donc moi j'aurais mis 10.
Okay. Nous, on fait pas, on vous exprime les choses, mais après on fait pas une addition avec chaque truc une note, et donc au final ça fait ça. C'est pas une grille technique, c'est pas Carglass répare. C'est avant tout une émotion, quoi.
Érudit
pour nous, voilà. Hein. Mais après vous avez la liberté d'avoir plusieurs avis.
Érudit.
Alors me concernant, ce qui m'a réellement plu, ce qui me plaît encore aujourd'hui d'ailleurs dans Final Fantasy XV, et ce qui me plaira je pense pour toujours, voilà, c'est ce catcheur. C'est vraiment les interactions entre ces personnages là et encore une fois même presque le scénario mis à part, parce que c'est vrai que pour moi il est presque devenu anecdotique quand on expliquait, là j'en suis à une vingtaine d'heures de jeu. Je suis encore au chapitre 2 du jeu.
Oui,
quoi.
Donc t'avances même pas dans le scénario que c'est voilà. Attaché, déjà attaché au personnage. Toi, hein.
Mais oui, parce que je prends le temps et parce que.
Mais parce qu'il faut prendre le temps.
Et voilà, il faut. Il y a cette générosité, il y a tout ça, il y a toutes ces interactions. Comme j'expliquais, on est en voiture, c'est pas grave. Je sais pas, Prompto me dit tiens, on va prendre une photo. On y va, on va prendre cette photo là. Et là, au loin, il y a un autre monstre. Ben, on va y aller. On découvre une quête annexe. On va la faire. On apprend à découvrir ce genre là. On vit ensemble. Ensuite, on va s'arrêter. On fait un petit feu de camp. Ils vont s'amuser, ils vont chanter. Et. Ouais, c'est ça, c'est ce nouveau groupe d'amis. Tu parlais de frères d'âme, de compagnons d'armes. J'ai l'impression de faire partie de ce groupe, quoi. Et c'est ce qui est excellent. Et en plus, la manière ensuite dont ça se retranscrit après dans les combats, pour rester un peu plus dans ce côté la gameplay, qui est c'est complètement jouissif.
En fait, tu joues pas, à la limite, tu vis le jeu.
Mais c'est
tu
ça.
Le vis en fait plus que tu ne le
et
joues.
Hein. Voilà, et toutes ces animations quand ils vont, on se fait un petit check avant de faire une attaque spéciale ensemble. Quand finalement tout le monde est mal en point, Ignis arrive et dit allez, tout le monde on se regroupe. Et effectivement, là, venez tout le monde on se regroupe, on est tous ensemble. Et là, ils prennent un petit peu la pause avant de repartir justement pour aller battre encore d'autres démons. Enfin, c'est simplement exceptionnel. Et donc c'est pour tous ces moments-là en fait que ouais, il est complètement culte pour moi.
Mais par rapport à un Persona, tiens, si on devait faire un comparo, parce que Persona c'est un peu ton jeu de l'année,
c'est mon RPG de l'année. Effectivement, par rapport à un Persona, et c'est là où je vais faire la deux distinctions, pour moi Persona 5 c'est le meilleur RPG de l'année 2016. Enfin, on verra en 2017 quand il sortira en France. Et FF15 c'est le meilleur buddy movie interactif de l'année 2016. C'est comme ça que je le vois. Parce qu'effectivement, j'ai quand même un petit peu de mal sur plein. Là, plus l'aspect justement technique, pas technique réalisation, mais technique du jeu et des RPG en général, que je trouve encore trop vieille. presque frustrante en fait à certains points, quand je parlais de la gestion des quêtes, quand peut-être la manière en fait dont on est censé organiser son équipement et ses objets.
Là, c'est sa magie plus... aussi, hein, on a pas parlé de la magie, mais voilà. C'est vrai que la magie, ça peut être une sacrée usine à gaz si t'as pas vraiment le temps de vouloir te pencher dessus pour mélanger les éléments.
Faut jouer au petit chimiste,
bah voilà, et à la fois, ça donne plus de liberté que jamais.
Ouais.
C'est-à-dire que tu peux paramétrer la puissance de tes sorts, l'intensité, les lier avec des objets qui
mais on est quand même extrêmement limité parce que finalement il faut avoir ces fameuses flasques pour en créer
les sphères,
et donc finalement on est extrêmement limité, tandis que là
il y en a un peu partout quand même.
Non, ça c'est les essences à récupérer, il y en a partout. Mais
ah, mais tu vas en avoir de plus en plus.
Les sphères aussi, hein, t'en trouves plein.
Je sais pas, j'en ai une dizaine presque.
Ah bon.
Quand t'auras arrêté avec les courses de chocobo et les grenouilles, tu pourras aller trouver.
Tu n'en es qu'au chapitre 2.
Non, effectivement. Alors que Persona 5, c'est vrai qu'il avait cette générosité qu'à Final Fantasy XV, mais derrière avec des mécaniques extrêmement bien huilées, que c'était parfaite.
J'ai fini Persona 5.
Oui,
attends,
de finir FF. Non. Effectivement, on verra.
Cela dit, j'ai pas joué à Persona 5, donc je peux pas faire le
travail. Oui, donc finalement,
rendez-vous en 2017. Hein.
Voilà. Et puis Persona 5, vous avez le test import sur Gameblog que Rudy a réalisé. Il a eu 10. Hein. C'est un jeu culte pour nous, donc il a toute sa place. Quelque part, il a même une meilleure note que ce FF15, qui effectivement n'est pas sans défaut. Mais par contre, je trouve qu'il a une qualité, on va dire, historique. C'est que, on en parlait en début de podcast, déclin de la licence FF.
Oui.
Pour moi, je dis pas qu'elle est repartie comme en 40, mais en tout cas, ça y est, la licence FF, Final Fantasy, s'est remis debout et a tous les arguments
maintenant. A redoré son blason.
Pour repartir en conquête et sur la base de cette équipe-là, gérée par Hajime Tabata, plus la technique qu'ils ont mis en place, les méthodes de travail probablement qu'ils ont mis en place, de cette fois-ci gagner du temps, de l'expérience pour vraiment faire un FF16 ou autre.
Ou FF15-2
Je sais pas. Moi, à mon avis, je suis pas sûr qu'il y aura un FF15-2. Je pense qu'il y aura
les DLC,
je pense que le 16 risque d'arriver peut-être plus vite qu'on ne le croit. Mais parce qu'il est en développement. Et je pense que du côté d'Anis Philosophy, il se passe des choses. Mais bon, on verra bien. Et donc, d'avoir un FF encore plus parfait peut-être. Mais surtout, ce que j'aimerais, c'est qu'il améliore son système, etc., mais qu'il ne perde pas de vue la qualité de son histoire et de la force humaine qu'ont les personnages qu'il dépeint, parce que pour moi, c'est quand même ça qui fait que ce FF est cultissime.
C'est vraiment pour ça, la raison pour laquelle je vais vraiment vous donner rendez-vous en avril 2017, quand Persona 5 sortira, parce que tout ce dont on a parlé, ces relations extrêmement humaines, ce côté extrêmement poignant qu'on peut avoir, cette intimité, c'est exactement ce qui fait la force de Persona, et qui est ensuite réutilisé dans le système de combat. Donc c'est pour ça que moi, tout ce que tu me dis, je t'invite réellement à faire
avec plaisir.
En avril 2017.
Ouais, bon, et puis on va finir avec ce que vous pensez, vous, chez vous, de Final Fantasy XV. On vous a fait voter par le biais d'un sondage sur le jeu et vous nous avez exprimé la note que vous mettriez à Final Fantasy XV.
Sondage qui est toujours ouvert, évidemment. Absolument. Parce qu'évidemment, le jeu est sorti depuis assez peu longtemps officiellement, mais quand on a vu en fait sur Twitter, dans les forums, dans les MP, le nombre d'entre vous qui avaient le jeu, non pas le 29, mais enfin plutôt 5 jours ou 6 ou une semaine avant.
Absolument.
Bon, on sait qu'il y en a déjà beaucoup d'entre vous qui
l'ont fait. On peut les citer, hein, que ce soit Amazon, la Fnac, Auchan, Carrefour, ils ont craqué tout de suite.
Il n'y avait pas que des petites boutiques de certains quartiers spécialisés. Hein, c'était majeur.
Il y a eu une ouverture des vannes dès le vendredi, absolument phénoménale. Alors, vous, de votre côté, si on vous pose la question, vous nous répondez à 10% que vous êtes capable de mettre un 10 à Final Fantasy XV. Vous êtes 27% à rejoindre la note de Julien. C'est la majorité, on va dire. Hein. C'est un peu le score fioniste. Le 9 sur 10. Ensuite, vous êtes 22% à mettre 8, 10% à mettre 7, 7% à mettre 6, 2% à mettre 5, 3% quand même à mettre 0.
Bon, c'est bon.
On ne sait jamais. Et vous êtes 7% à ne pas avoir le jeu au moment où le vote est arrivé.
Ce qui fait que la moyenne aujourd'hui, actuellement, elle changera peut-être si vous êtes encore plus nombreux à voter, machin, mais actuellement, les gameblogueurs vous mettaient 9 sur 10 à Final Fantasy XV. Ça me rappelle une note de Gameblog. Et si on regarde Metacritic, il est très bien noté, il est à 84. Si on regarde Open Critique, qui est une autre alternative à Metacritic, pour ceux qui pensent que Metacritic, c'est même supérieur, c'est 85. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que la note des joueurs sur Metacritic, qui est généralement assez sévère, là elle est de 8. Donc c'est vraiment une bonne note. Donc l'appréciation globale pour l'instant, mais quelque part, bon, c'est pas le plus important la note, une fois de plus.
Mais déjà ce qu'il y a
on vous écoute,
du test.
On vous regarde dans les forums, sur Twitter, etc. Vous êtes très nombreux à nous le dire. Pour l'instant, vous êtes en plein kiff. Et vous prenez votre temps, et vous avez raison.
Et les kiffs, c'est pas fini, hein. Il y a plein de jeux encore. Non, enfin, il y a quelques jeux encore qui arrivent pour cette fin d'année. On va même pas parler de 2017. La semaine prochaine, on va entamer une série de podcasts plutôt bilan.
Ouais.
On commencera avec là.
L'univers PlayStation, avec la PS4, la PS Vita, le PlayStation VR.
Voilà, on parlera un petit peu de tout ce qui s'est passé cette année dans le microcosme Sony. On viendra ensuite sur, évidemment,
Microsoft et le PC.
On finira avec Nintendo.
Et Nintendo après.
Et on parlera sûrement de jeux qui ne sont pas encore sortis aussi, dont un avec une drôle de bestiole.
Et puis, il y a quand même deux événements cette semaine. Hein,
en plus.
En fonction de quand vous écoutez le podcast, ils seront peut-être passés. Voilà. Mais si vous êtes premium, vous le savez, il y a les Game Awards. Vous pourrez les vivre en direct avec nous à partir de 2h du matin.
Absolument.
Dans la nuit de jeudi à vendredi. Et il y aura le PlayStation Experience. Pour l'instant, pas de conférence officiellement annoncée. Mais enfin bon, notre petit nez, notre petit doigt et nos petits orteils nous disent que comme chaque année, il y a toujours eu une conférence en ouverture et comme on voit que des personnalités comme Hideo Kojima, comme le responsable de Horizon viennent à l'événement, ça ne nous étonnerait pas que ce soit encore le cas. Et si tel devait être le cas, eh bien ce serait samedi à 19h et donc on va vous préparer d'ores et déjà un live avec Carole et Julot, prise d'antenne dès 18h ce samedi, voilà, et dans la nuit ce sera Carole et
dans
Plume
la nuit du 1er au 2 décembre, c'est ça, pour
jeudi vendredi. Absolument. Donc plein de lives, plein de moments de jeux vidéo, plein d'annonces, plein de surprises, plein de jeux non annoncés, probablement très bientôt.
2016, c'est pas fini. Voilà. Par contre, ce podcast, lui, il est terminé. Merci Rudy, merci Julien, merci Carole,
merci
Poufi qui baille à la sono, merci Eponac, hein, qui est resté sage, hein, pendant le podcast.
Très sage,
hein.
Elle
a pas trop bougé. Elle me fait beaucoup penser à une bestiole que j'ai côtoyée ces derniers jours. Bref.
Trico, ouais. Trico, Trico.
Bref, merci à vous de nous avoir suivis. Évidemment, n'hésitez pas à exprimer votre avis sur Final Fantasy XV dans les commentaires, même si vous l'avez déjà fait dans le test, dans les j'ai quelque chose à vous dire, vous n'avez pas hésité à en parler, mais n'hésitez pas si on a oublié des choses, même si on a trop
appuyé
sur certains
éléments.
Si vous
avez des avis contraires ou complémentaires,
allez-y.
Franchement,
n'hésitez
pas. Vous savez, nous, le débat est totalement libre. Il y a la place pour tous du moment que c'est fait avec raison, calme et
respect
de la vie de l'autre, qui peut être différent.
Au calme.
Et tant mieux.
Bon, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre podcast de la rédaction. D'ici là, portez-vous bien et surtout...
Et surtout, n'oubliez pas qu'à partir de la semaine prochaine, c'est la tradition, il faut bien... Il y a les Gameblog Awards qui vont arriver.
Courage.
Et donc, catégorie par catégorie, et il y a des nouvelles catégories cette année qu'on vous propose, vous allez pouvoir exprimer vos votes à vous, les lecteurs de la communauté Gameblog. Bah, n'hésitez pas, partagez-les, etc. Faites voter, militez pour les jeux que vous voulez défendre. Vous le savez, à chaque fois, il y aura le prix... remis par la rédaction et le prix remis par vous, nos lecteurs. Voilà, j'ai fini, Plume.
Et le prix du relou ?
Bah non, tu sais, ça s'appelle une tradition. Faut
mais c'est une mauvaise tradition. Non, non,
bah, non. Les gens l'apprécient.
Ok, non, pas moi.
C'est,
bon.
C'est pas grave.
Qu'est-ce que c'est quoi déjà la phrase à la fin ?
Je vois
ce que tu dis à la fin.
Je sais plus quoi.
Arrête, il a inventé
le jeu vidéo. Oui,
bah allez, allez.
Tu veux quoi ?
Bah, c'est la fin la plus lourde.
Bah,
allez,
vas-y.
Ah bah,
mais je sais pas. Allez,
vas-y.
Surtout,
là, c'est
portez-vous
là.
Bien et surtout, jouez bien.
C'est
ciao.
Pas dans l'autre sens ?
Non, je sais pas.
Ouais, bon, c'est pas grave. Allez, salut.
Allez, salut à tous.
Bisous.
Ciao.